Donc Daniel, je pense que maintenant nous passer les propos.
Pascal, tu voulais intervenir ?
Nous passer la parole à Madame Brunet pour une présentation d'une dizaine de minutes.
Vous avez dans vos pochettes, et puis on en a d'autres, des formats à 5.
Bonjour, Christine Brunet, adjointe à la sous-direction de la régulation de l'offre de soins. Donc je suis une collaboratrice de Jean de Beaupuis.
Donc j'ai la tâche de la fois,
c'est-à-dire facile, compliqué et impressionnante de vous parler de ce que dit le projet de loi santé sur le service territorial de santé et sur le service territorial de santé en santé mentale. Alors pourquoi c'est impressionnant? D'une part, je vais dire tout de suite, parce que la maire du SPSPP, c'est quand même Bernadette Dior, c'est elle qui a fait le rapport, c'est elle qui a mené tous les travaux, et donc parler d'un résultat forcément un peu décevant, un peu moins riche que le rapport, et bien est compliqué. En tout cas, je vous remercie pour tous les travaux que vous avez menés et qui nous ont beaucoup aidés. C'est facile parce que quelque part, je suis guidée par le texte du projet de loi, que donc je ne pourrais pas en dire beaucoup plus, ce qui n'est pas encore voté. Voilà. Et c'est compliqué parce que le service territorial de santé au public, comme l'a expliqué Bernadette Victor, c'est aussi un concept, c'est des valeurs, c'est des notions telles que responsabilité populationnelle, dont on sait qu'elles se prêtent mal à la loi. C'est-à-dire que juridiquement, qu'est-ce que ça veut dire responsabilité populationnelle? On ne sait pas. Ça ne veut pas dire que si quelqu'un n'est pas soigné, parce qu'il est resté chez lui, on va pouvoir attaquer. Parce qu'avec la notion de responsabilité en droit, il y a la notion d'assister en justice. Donc, c'est des notions qui sont compliquées. On voit bien ce que ça porte. On voit bien ce qu'on veut dire et ce qu'on veut faire. Mais à mettre en termes juridiques, c'est compliqué. Donc, il n'y a dans la loi que ce qu'il peut y avoir dans la loi et pas effectivement ce qui en fera peut-être le corps et la chair.
De retour vers les établissements ou vers le terrain, me paraît que les acteurs feront vivre.
C'est aussi compliqué parce que, et je vais vous dire un peu, la loi va poser un cadre, quelques normes, mais par définition, à partir du moment où on veut vraiment que le service territorial de santé au public soit fondé sur les diagnostics partagés, la participation des usagers, la participation de l'ensemble des acteurs en santé, on voit bien que ce sera aussi ce que les acteurs en feront sur les territoires. Et que ce n'est pas la loi qui va dire, voilà, le service territorial en santé, c'est ça, et vous allez faire ça. Le service territorial en santé au public va poser un cadre qui va rendre possible des choses, qui va rendre évaluable des choses, qui va faciliter l'action des acteurs. Mais ce sera vraiment un cadre qui devrait être nourri et alimenté par les acteurs eux-mêmes et en fonction des spécificités territoriales. Donc voilà, il ne faut pas attendre de la loi plus que ce qu'elle peut apporter. On a essayé le Conseil d'État nous y a bien aidé de
être
le plus précis possible et le plus explicite possible sur ce qui est attendu et le cadre dans lequel ça va se faire, mais il y a forcément peut-être des questions qui se posent et qui sont
avec des méthodes, etc.
Pas satisfaisantes.
Mais d'autres peuvent avoir des points de vue différents qui, sans nous amener exactement au même résultat, nous feront progresser. Et je dois témoigner, preuve que les choses sont à géométrie variable et qu'on ne doit pas prétendre à l'homogénéité totale. À l'échelle un peu que décrit Madame de Victor, d'une communauté d'agglomération, 95 000 habitants, qui décide de lancer un ABS. Ça ne parle sans doute pas à grand monde, c'est l'analyse des besoins sociaux,
qui est
un acte obligatoire dans une commune. Sauf que
donc le service territorial de santé au public, donc je vais vous présenter d'abord la définition, les objectifs, la méthode de mise en œuvre, et puis le fait qu'il y ait une déclinaison particulière et un article particulier pour sa déclinaison santé mentale. C'est la seule déclinaison particulière qui soit prévue dans la loi de la santé mentale du service territorial de santé au public. Alors les prémices du service territorial de santé au public, je l'ai rappelé parce que c'est pas anodin de rappeler que tout ceci est issu au départ des travaux menés par l'hôpital général, à laquelle beaucoup d'entre vous ont participé, de groupes de travail qui ont été menés derrière, dont à l'origine, un des objectifs était de refonder le service public hospitalier. Et c'est finalement les acteurs hospitaliers qui ont dit à un moment donné, oui, mais s'il n'y a que nous qui changeons, s'il n'y a que nous qui nous coordonnons, s'il n'y a que nous, on n'y arrivera pas, parce qu'en fait, la continuité sur un territoire des parcours de santé ne dépend pas que de l'hôpital. Oui, l'hôpital est une place importante et oui, les valeurs
on va entendre un peu d'accent alsacien maintenant avec la parole à Daniel Carole.
Seul, on ne peut pas y arriver. Et donc, Il y a ce cheminement qui a conduit à ce qu'on demande à Mme de Victor, effectivement, de faire un rapport sur ces deux sujets, la rénovation du service public hospitalier, qui fait l'objet d'une mesure dans le projet de loi, et puis un travail sur la mise en place d'un service public territorial de santé, qui est devenu, vous le savez, service territorial de santé au public, centré autour du parcours du patient, de la personne prise en charge, ouvert sur son environnement, et intégré dans un dispositif plus large que les simples établissements de santé, intégrant l'ensemble des acteurs de santé, le dispositif plus longtemps.
On a une lettre de commande de la part de
donc
l'ARS.
Donc, en fait, le service territorial... Alors, pourquoi on est passé rapidement du service public territorial de santé au service territorial de santé au public ? C'est parce que le service public territorial de santé comportait, pour certains acteurs, une ambiguïté en disant, mais si c'est service public, alors ça ne peut être que des acteurs publics qui participent, ce qui n'était pas l'esprit. Service public voulait dire respect de valeurs, d'accessibilité, de continuité, accessibilité financière, géographique, tous les principes du service public, c'était ça que ça portait. Néanmoins, certains acteurs ont pu dire, mais après, à ce moment-là, est-ce que ça va exclure ? Est-ce que derrière, il n'y a pas une volonté que tout le monde soit service public, que les acteurs libéraux ou privés ne soient pas inclus à leur juste place ? Alors que l'enjeu et l'intention étaient tout différents.
Le DG de l'ARS.
Donc, au fil des travaux, le nom a changé pour être plus lisible et pour dire qu'on est bien dans un service territorial de santé au public qui va se servir de tous les acteurs. Mais ça ne veut pas dire que les principes qui le font aient changé. C'est-à-dire que les principes de continuité, d'accessibilité, de réduction des inégalités en santé restent les enjeux essentiels du service territorial en santé. Ce que je voulais dire aussi, c'est que ce service territorial de santé au public
trouver à la demande des
ne répond pas à tout.
ARS, plus de
c'est-à-dire que toutes les autres politiques d'organisation de l'offre, de réduction, d'installation des médecins généralistes dans des zones
un peu
défavorisées, etc.,
voilà.
Continuent.
On va redécouper.
Le service territorial de santé publique est fondé sur l'idée, un peu comme disait Mme de Victor déjà, que même sur les territoires, où pourtant il existe les acteurs en santé,
de la communauté urbaine de
il y a des personnes pour lesquelles l'accès, la continuité des services en santé est compliqué, ne se fait pas spontanément, et qu'il y a effectivement nécessité peut-être de changer les pratiques, de changer les organisations et d'anticiper les difficultés de ces personnes-là pour que sur un territoire, ça fonctionne mieux. L'idée est de dire finalement qu'on doit passer
des réflexions, est-ce qu'on va créer un GCS,
une réflexion deux à deux,
finalement, c'est la voie
du médecin avec son patient, responsabilité de la personne sociale avec la personne qui prend en charge,
on y travaille,
une sorte de responsabilité, on le disait, populationnelle, qui est de dire finalement, moi si je vais jusque-là, est-ce que toi, autre acteur de santé, au sens large,
à mon avis, les deux notions
de territorialisation de l'éducation nationale, est-ce que toi tu prends la suite ou est-ce qu'il y a un trou finalement et que du coup, les personnes vulnérables n'arriveront pas à le combler.
Je
donc comment collectivement
ce projet,
sur un territoire, nous les acteurs, on s'organise
un peu accéléré,
pour être sûr que là où s'arrête notre action,
c'est
bien le lien avec l'action reprise par quelqu'un d'autre.
Même,
donc c'est ça, on est donc bien sur l'évolution des pratiques, plus que sur quelque chose
de
structurel,
la visibilité, au sens en lien avec les élus et avec l'ARS. Voilà, une modeste expérience.
Alors, le service territorial de santé au public,
est-ce qu'il y a d'autres, d'autres interventions
qui est fondé sur l'idée. Et en fait, c'est assez didactique. On part de la définition. Non, j'ai fait un mauvais signe. On part sur une définition de ce que c'est des objectifs du service territorial de santé au public, des modalités de mise en œuvre sous le pilotage de l'ARS, du fait que ça part d'un diagnostic territorial, et ça c'est très important, parce que c'est ce qui va aussi fonder le projet territorial derrière, et la contractualisation. Et la contractualisation qui donne aussi toute sa crédibilité au système, puisque derrière il y a des engagements, et des engagements forts, et il y a des outils qui sont mis au service du service territorial de santé au public. Et puis, comme je vous le disais, ce qui est prévu aussi, c'est le lien avec le projet régional de santé. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas actuellement encore tous les éléments sur comment ça va se faire en termes de gouvernance, etc., puisque dans le projet régional de santé, l'article sur le projet régional de santé prévoit également la gouvernance territoriale de ce projet régional de santé, que la gouvernance du service territorial de santé au public, ce sera bien en lien avec cette gouvernance de démocratie sanitaire pour ne pas multiplier les instances de consultation, etc. Donc il y aura tout un travail à penser au niveau des décrets, des textes, voire des guides méthodologiques, de coordination de l'ensemble pour que ce ne soit pas une succession de structures de consultation qui doivent attendre une autre structure de consultation, etc. Donc on n'a pas dans le détail encore tout ça et ce n'est pas la loi qui le porte. Donc je vais reprendre chaque. Donc les objectifs. Les objectifs, c'est donc des objectifs larges, d'amélioration, de protection de l'état de santé de la population et de lutte contre les inégalités sociales de santé. Donc c'est un vrai objectif du service territorial de santé au public, c'est pour ça que c'est créé. Et c'est donc de l'idée de pouvoir promouvoir des actions d'amélioration dans l'accessibilité et la continuité des services de santé pour l'ensemble des usagers et que ça sera fondé sur une meilleure coordination des acteurs impliqués dans le parcours de santé, avec cette idée qu'il y a quand même deux niveaux de coordination. Il y a un niveau un peu macro de coordination sur des projets, ce que je disais, comment on s'organise collectivement sur un territoire pour que le service soit rendu. Et puis, il y a le sujet après de comment ça se déclinera pour chaque personne prise en charge, qui seront effectivement une déclinaison, mais qui sont à un niveau de coordination un peu différent. Diapositive suivante.
On voit bien que même la notion.
Donc, en fait, on peut dire globalement qu'il y a cinq axes pour le service territorial de santé publique. D'abord, c'est qu'il faut qu'il y ait plusieurs acteurs. Ce n'est pas un seul acteur qui peut tout faire. L'idée, ça part bien du fait qu'il faut que sur un territoire, l'ensemble des acteurs concernés coopèrent. Donc ça veut dire qu'il faut des acteurs ambulatoires, hospitaliers, médico-sociaux, sociaux, et l'article de loi dans social le décrit un peu en disant que c'est aussi les services déconcentrés de l'État, c'est aussi les collectivités territoriales, c'est-à-dire tous les acteurs qui ont à voir avec la politique de santé du territoire. Donc c'est pas une liste, on n'a pas fait une liste exhaustive parce qu'on va toujours en oublier, mais l'intention est bien celle-là.
Qui n'ont pas les mêmes territoires.
C'est une approche populationnelle sur un territoire, même si la loi ne dit pas comme ça pour les raisons que je dis. Ça répond à des objectifs prioritaires d'accès et de continuité des soins pour tous. Et ça contribue donc à la fois à structurer les soins de proximité et organiser les parcours en santé. Donc on est bien sûr accès aux soins de proximité pour tous et continuité des parcours en santé, en particulier pour les populations vulnérables, en particulier pour les personnes qui ont des parcours de soins complexes. Donc il est complémentaire des autres politiques. Et donc en fait, le STSP sera l'ensemble des services mis en place par cette organisation d'acteurs sur un territoire.
Préside
diapositive suivante.
À la définition des contours. Ensuite, à l'intérieur.
Donc, les thèmes prioritaires, c'est les thèmes génériques qui sont prévus, l'offre de proximité, la prévention, des priorités ciblées.
Il me semble que les secteurs.
Trop rapide. Des priorités plus ciblées, soit sur des populations. En fait, c'est ciblé sur toutes les personnes en situation de vulnérabilité.
Et dans ce cadre-là.
Que cette vulnérabilité soit associée à des problèmes de précarité sociale, qu'elle soit associée à des maladies chroniques qui fragilisent la personne, qu'elle soit associée à des problèmes d'âge, quelle que soit la raison de la vulnérabilité. Le handicap, le STSP est prioritairement là pour aider ces personnes-là à avoir accès aux soins dans un cadre de continuité. Ces priorités sont forcément modulables en fonction des spécificités locales, on y reviendra, puisqu'en fait, il y aura un diagnostic partagé qui sera fait sur les territoires, et ce diagnostic partagé qui va dire sur tel et tel territoire quels sont les enjeux prioritaires de travail. On a déjà commencé à travailler à échanger avec certaines ARS, et certaines ont dit, chez nous, dans tel territoire, la périnate est vraiment un problème. Très très lourd parce que il y a besoin de coordination, parce que précarité sociale, parce que etc. Il faudra qu'on travaille prioritairement là-dessus. D'autres vont dire les adolescents, alors là vraiment on a quelque chose à faire sur les adolescents, ce serait une priorité. Ailleurs, ça peut être l'accès aux soins des personnes handicapées, physiques ou psychiques. Donc ce sera aussi. C'est ouvert à toutes les priorités, mais ce sera modulable en fonction des territoires qui seront définis pour s'adapter aux besoins réels de la population.
Et puis ensuite, ça a été
en tout cas, ce qui sera obligatoire, et la seule chose qui sera vraiment obligatoire, ce sera une déclinaison en matière de santé mentale, puisque l'article 13 du projet de loi définit précisément ce que sera le service territorial de santé en santé mentale, qui est une déclinaison du service territorial de santé au public. C'est-à-dire que ce n'est pas un nouveau service territorial de santé au public en santé mentale qui n'aurait rien à voir avec le service territorial de santé au public. Le service territorial de santé au public existe, aura, on verra ses modalités de gouvernance, etc. Et il aura une déclinaison pour la santé mentale. Ce n'est pas quelque chose, en plus, à côté, sans lien avec le service territoire de santé publique. C'est bien une déclinaison de la santé mentale. Donc voilà,
merci.
Globalement, la démarche,
éventuellement,
je
reviendrai,
il y a un diagnostic territorial partagé, réalisé par l'ensemble des acteurs du territoire sous la responsabilité de l'ARS.
De fin de matinée.
À partir de ce diagnostic territorial, il y aura un projet territorial qui identifiera les actions prioritaires et les moyens mis à disposition des acteurs pour le faire. On crée un contrat territorial de santé qui est un nouvel outil juridique proche du contrat local qui existe déjà. On le change parce que dans le contrat local, on avait l'idée que c'était essentiellement pour des institutionnels. Alors que là, ce qu'on veut bien montrer, c'est que le contrat territorial en santé sera signé, y compris par les acteurs de santé, même un médecin généraliste pour en être signataire. Le contrat local de santé définira de manière concrète les actions de mise en œuvre sur le territoire, des projets territoriaux de santé, et donc les engagements réciproques des acteurs. Et puis, il y a des leviers incitatifs, que ce soit des leviers financiers qui sont prévus, notamment dans le cadre des fonds du FIR, ou des leviers qui sont faits par des liens qui sont faits, vous verrez, dans le projet de loi santé, avec des autorisations d'activité, que ce soit dans le domaine sanitaire pour l'établissement de santé ou dans le domaine médico-social, c'est-à-dire que l'octroi d'autorisation peut être conditionné à la participation par un acteur au projet de service territorial de santé.
Et aussi le développement de compétences.
Je n'ai pas prévu dans les diapos de
répondre aux besoins du public.
La participation sur le service territorial de santé au public est volontaire. Parce qu'on n'a pas de moyens de dire à un médecin, vous allez faire ça, à une association, vous allez faire ça, à la mairie, vous allez faire ça. Donc, elle est fondée sur le volontariat, sachant que l'ARS a des outils pour le faire, sachant que l'ARS impulse fortement. Donc, c'est du volontariat, mais du volontariat qui va être cité. Néanmoins, l'établissement qui sont reconnus participants, enfin,
elle a besoin aussi, pour répondre aux besoins de la population, de développer des connaissances et des pratiques.
Cette notion de service public correspond. Les établissements qui seront service public hospitalier, de front, de vie, ça fera partie de leurs obligations de participer au service territorial de santé au public.
Elles s'organisent aujourd'hui avec des gens qui ont une vie profondément différente de celle qu'on a connue.
Donc, le diagnostic partagé, donc il sera obligatoire sur tous les territoires. Alors, la question de la maille du territoire est une question compliquée, importante.
Quand on secteur rénové,
et en même temps,
je serais tenté de dire.
Alors, je n'irai pas très loin parce que vous savez sans doute que la ministre a demandé à Véronique Vallon,
qui est du droit de présentation des notaires,
de travailler sur la mise en œuvre.
Mais on ne peut pas demander non plus d'aller jusqu'au médecin ou qu'il y ait
commencer à anticiper sur finalement quelles voient les questions qu'il faut travailler plus précisément.
Très content. Très content.
Je pense qu'il a fâché ce volu,
j'en sais rien. Est-ce qu'il y a du rappel au niveau du service
public? Parce que le secteur, c'est un territoire. Qu'elle va lancer et qui nous permettra d'avancer plus finement.
C'est la garantie.
En tout cas, ce qui se dit quand même, c'est que dès qu'on commence à travailler sur des parcours complexes
des personnes, c'est la garantie donnée aux personnes,
que ce soit des personnes âgées, que ce soit des personnes en santé mentale, que ce soit.
Sans aucun prétexte, il y a à peu près besoin des mêmes acteurs.
Il y a besoin, sur un plan institutionnel, que le Conseil général soit
présent.
Il y a besoin, bien évidemment, de l'ARS. Il y a besoin de la municipalité qui vont agir. Il y a besoin des principaux acteurs sanitaires, des médecins généralistes, des acteurs médicaux. Donc finalement, il y a une maille de territoire pour concevoir les projets territoriaux qui se dessinent assez, qui une maille de territoire de projet qui se dessine avec après des territoires de mise en œuvre.
Est-ce qu'il y a éventuellement un dernier commentaire du côté des intervenants de ce matin?
Psychiatrie, etc.
Oui, je vous en prie.
Finalement, il y a un peu ces deux notions de territoire qui se dessinent, mais ça reste à travailler. En tout cas, ce sera un sur l'action important, tout à fait, territoriale. La loi, le projet de loi prévoit une montée en charge progressive
c'est vrai pour les chercheurs,
de ce diagnostic,
c'est vrai
parce que ça travaille qui est long, ça travaille qui est à la fois tellement flou réalisé.
Et tellement
on souhaite que ce soit un diagnostic partagé, c'est-à-dire qu'il est animé par l'ARS, mais participe à ce diagnostic l'ensemble des personnes qui ont quelque chose à dire sur le sujet. Quand on va parler de l'accès aux services de santé des adolescents, il faut que des représentants, des usagers adolescents y participent, il faut que l'éducation nationale y participe, il faut que les habitants de santé y participent. Voilà, donc c'est vraiment ce qu'on appelle un diagnostic partagé.
Une espèce d'inflation de la notion
axé sur les enjeux d'accessibilité, de coordination et de continuité. Ce n'est pas un diagnostic partagé sur tout
le champ, mais on sait
parce que sinon ce serait trop long, trop compliqué à faire. On est bien sur cette notion de favoriser l'accessibilité et la continuité des prises en charge. Quels sont sur ce territoire-là les vrais problèmes d'accès aux soins ou d'accès aux services de prévention? Quels sont les vrais problèmes d'accessibilité? Quels sont les leviers de changement? C'est bien ça que devra faire les territoires. On prévoit une montée en charge progressive de ce diagnostic sur 3 ans parce que c'est un vrai travail qui sera long, qui sera aussi progressif. C'est-à-dire qu'on peut imaginer qu'il y aura dans un premier temps un diagnostic un peu global et puis au fur et à mesure, ce diagnostic s'enrichira sur des thèmes plus précis et le projet territorial s'enrichira aussi. C'est une démarche qui avance et qui avance. On s'est beaucoup demandé. Alors, on passe, c'est bien écrit.
Donc
le diagnostic partagé, je l'ai dit, ce qui est important, c'est qu'il y aura des éléments quantitatifs et qualitatifs. Donc quantitatif, ce sera quand même des notions de système d'information partagé, des notions statistiques, causes de la population, etc., pour avancer. Et qualitatif, c'est tout ce travail d'étude et de réflexion des gens entre eux. Ça donnera lieu à un projet territorial en santé qui sera validé par l'ARS et les principaux financeurs. Ce projet territorial sera après avis du Conseil territorial de santé dans ce nouvel espace de concertation de démocratie sanitaire prévu pour le projet régional de santé. Il y aura une information de la conférence régionale de santé et d'autonomie qui assurera la publication de ces projets territoriaux. Et ils s'incarneront
Docteur Mickey Dekier, ensuite Jacques
dans des contrats territoriaux en santé qui seront signés par les différents acteurs impliqués dans le projet et par les différentes actions. Donc, il n'y aura pas forcément un contrat territorial pour un projet territorial.
L'extrême éventail des découpages de l'éducation nationale, des conseils généraux, etc.
Acteurs concernés, et pour simplement rappeler que ça fait partie de l'histoire politique des Français
et de la volonté d'un État centralisateur.
Les leviers, je les ai déjà parlé, c'est donc des leviers territoriaux. Organisationnel, des autorisations qui devaient être conditionnées, puis il y a des autres outils qui devront être utilisés et coordonnés dans le cadre de sa histoire de santé publique, que ce soit les télémédecines, les filières, etc. Et donc, Mme Vallon doit faire des propositions pour nous permettre d'avancer.
Deux autres remarques liées à l'intervention du chef d'établissement de Charente, que j'ai eu l'occasion de rencontrer.
Je suis resté longtemps
sur
le service directeur de santé publique parce que c'est le bon
ces deux interventions, il y a des questions qui me semblent très importantes.
Je pense que vous-même voyez bien comment il est susceptible de se décliner en psychiatrie et santé mentale. La première intervention de ce matin, il a évoqué sur un territoire un peu
de la place des usagers et de la représentativité des usagers. Je reviens à la thématique des us. On a beaucoup parlé de participation
sur un territoire un peu plus large.
Mon
comment
problème aujourd'hui
il va se décliner en priorité sur les liens entre médecins généralistes et psychiatres, sur les liens entre acteurs médico-sociaux et
donc je demande à l'assistance, est-ce que vous êtes capable, avant de faire des PowerPoints sur la participation des citoyens, est-ce que vous êtes capable,
les seuls acteurs obligatoires sur le service territorial de santé en santé mentale, sans l'établissement de santé publique comme pour l'STSB, sachant que la loi prévoit que les établissements qui seront sécurisés en psychiatrie
commençons là aussi par
seront forcément des établissements
et puis donc, relié à ce point, il a évoqué autre chose, qui est une demande récurrente des équipes. C'est la formation sur la thématique de l'ethnopsychiatrie et de l'interculturalité. Ceci est en lien avec
être dans l'accessibilité et la continuité, on doit être un service public hospitalier. Mais le service territorial en santé mentale devra accueillir l'ensemble des acteurs de santé mentale dans lequel les
acteurs de psychiatrie seront des acteurs dans la dimension interculturelle du soin.
Et donc, il y a une mission, effectivement, mais vous savez qu'il y a des confiés à Michel Lacourcade, des GDRS, sur ce sujet-là.
C'est bon. Oui. Oui, ensuite, madame. Allez-y, madame. Merci beaucoup, madame Bronec. Il y a peut-être la place pour une question dans la salle. Voici à madame Bronec, avant qu'on enchaîne sur l'exposé de Pascal Mariotti.
Quelqu'un souhaite intervenir. Le local de santé, je mesure en fait la nécessité de fonction de coordination.
Alors, si personne ne souhaite intervenir, moi, je voulais me permettre de vous poser une question. Quand on examine la version du projet de loi de juin et celle de septembre, on constate quand même que le conseil territorial a changé de registre en termes de rôle. C'est-à-dire, dans la première version, le conseil territorial avait une véritable mission d'animation.
Qui n'ont pas d'existence.
Et puis, avait aussi un rôle très affirmé par rapport à la réalisation du diagnostic. Dans la version de septembre, la balle est passée quand même nettement du côté du DG de l'ARS.
Monsieur Robillard.
Et donc, c'est vrai que quand on lit la version actuelle,
on peut quand même craindre
que le rôle du conseil territorial ressemble finalement pas mal à celui des actuels.
Moi, je crois que le lien avec les élus est fondamental en matière de santé mentale, parce que ça permet la déstigmatisation, parce que les élus locaux sont d'excellents vecteurs.
Conférence territoriale,
ils ont la confiance,
il n'y a pas photo en termes de nihilisme des acteurs.
Et le fait qu'ils se préoccupent de santé mentale, ça traduit une évolution,
est-ce que ça va être renvoyé à une
deuxième raison, c'est que les élus locaux dans une certaine mesure
comment vous voyez les choses les ressources parce que ça a trait évidemment avec l'implication des
en matière de logement, en matière de culture, en matière sportive et on pourrait multiplier les exemples. Et de ce point de vue-là, la relation avec eux est fondamentale.
y a aussi des choses.
Après, je dois reconnaître que cette réforme intervient dans un temps qui est compliqué.
Après, elle est trop
compliqué pour les élus locaux parce que moi qui en suis un, c'est pas tout à fait où on habite actuellement. La carte territoriale est sur le bureau de l'Assemblée nationale. Je parle pour les régions. Les départements, c'est ce qui arrive, c'est qu'on pensait que les départements seraient bouffés par les régions. C'est pas du tout ça qui se passe.
Sachant que ascendant, effectivement, c'est de dire
par les communautés de communes, etc., par l'intercommunalité.
Il y a un moment où il y a une décision.
Le problème, c'est que l'intercommunalité monte en puissance. Ce qui fait baisser la puissance des maires.
Les acteurs souhaitaient vraiment
donc à tous les échelons, qu'on soit au conseil général, aujourd'hui les présidents de région ne savent pas, ils se doutent un peu de ce qu'ils vont devenir, mais enfin il y en aura moins qu'avant. Il va falloir réorganiser l'ensemble. Il y aura évidemment des conséquences sur l'organisation de l'État, mais on ne sait pas exactement laquelle. Les présidents de département, certains savent que, très clairement, dans l'Île-de-France, les départements devraient disparaître. Ça n'a plus de sens. Il n'y a pas que dans l'Île-de-France. Et puis, à terme, parce qu'il faut bien voir que cette problématique-là, elle n'est pas spécialement de gauche. C'est-à-dire que quand vous discutez à l'Assemblée nationale, vous discutez avec des députés des deux camps qui constatent tous que sur le terrain, les structures ont considérablement évolué et qu'on est obligé de repenser le système. Et donc, sur la suppression de l'échelon départemental, il y a y compris les élus de droite qui sont
d'accord.
Merci
beaucoup, Mme Bronec.
Regardez les rapports qui précèdent.
Il y avait une question.
Au rapport Balladur. Bon, voilà pourquoi cette problématique...
Il y a une question dans la salle.
Elle existera, elle ne va pas être résolue dans les deux ans qui viennent.
Ça sera intervention.
Mais elle continuera de se poser, quoi qu'il se passe en 2017. Donc, c'est devant nous. Et effectivement, l'échelon départemental... on voit bien qu'est-ce qui reste aujourd'hui. Il reste l'action sociale, ce qui est essentiel pour vous.
Camille Claudel,
mais même ça, ça peut se partager. Il y a des agglos qui sont aujourd'hui parfaitement en capacité de le reprendre. Simplement, une communauté de communes qui fait 20 000 habitants, elle ne peut pas. Et puis en plus, il n'y a pas l'échelon. Il faut que parfois, la proximité, c'est sympa, c'est essentiel. Mais un peu de distance, ça ne nuit pas sur certains sujets. Pour pas prendre un exemple en matière psychiatrique, pensez à l'aide sociale à l'enfance. Qui a un peu de distance par rapport aux parents, c'est parfois important. Ça ne peut pas être le maire du village qui prend la décision. Voilà, quelques exemples. Mais c'est pour ça aussi que c'est compliqué. C'est parce que moi qui suis élu local, même si je ne cumule pas, je sais qu'on ne sait pas exactement dans quel environnement on sait qu'il est en plein chamboulement et qu'il y en a pour 10 ans à le stabiliser.
Bon.
Et la réforme la réforme de Marisol Touraine intervient dans ce même délai. Ceci dit, la ministre de la Santé a l'avantage d'avoir une longue expérience comme élu local.
Merci beaucoup. Bon, mais je pense qu'on va pouvoir clore ces échanges autour de la table ronde.
S'inscrit dans la République.
Pascal, oui.
L'État assure sa mission et le moment venu.
D'accord.
Rendez compte.
D'accord. Alors, simplement deux mots pour dire que ce que j'ai trouvé intéressant ce matin, c'est qu'en fait, on reste sur beaucoup de choses non résolues, beaucoup d'incertitudes. C'est vrai qu'on pourrait se dire le but, c'est de sortir avec un schéma simple, mais justement, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas de schéma simple qui se dégage, bon, notamment par rapport à cette conciliation entre démarche ascendante et démarche descendante. Bon, je pense que ce qui est intéressant, c'est le brassage des cultures professionnelles, de voir arriver de nouveaux acteurs avec des logiques professionnelles différentes, une expérience différente. Sur Marseille, on est en train de travailler à travers le conseil local de santé mentale sur toute une thématique sur l'accès au logement des personnes souffrant de handicap psychique. Et à propos de brassage des cultures professionnelles, à Marseille, on a un atelier santé ville, santé mentale, ce qui n'est pas d'ailleurs très très courant. Et on a vu arriver donc le coordonnateur de cet atelier. Et c'est vrai que dans un premier temps, nous les hospitaliers, on s'est dit, mais bon, qu'est-ce qu'il vient faire dans nos débats? On est assez grand pour promouvoir nos organisations, etc. Et puis, j'ai pris la peine de relire les textes et puis de voir quelles étaient les compétences d'un atelier santé-vie, santé-mentale. C'était tout à fait dans son registre d'intervention que d'aller mettre son nez, y compris dans des affaires plutôt hospitalières, du fait de son champ de compétences très transversal. Et l'arrivée de cette personne,
Alors sur un mode un peu inhabituel, parce que la transversalité, nous on a quand même beaucoup l'habitude de discuter de manière très cloisonnée, ça apporte beaucoup de choses. Donc je crois que c'est ça l'intérêt du croisement des démarches, et ça nous aidera justement à dégager ensemble des solutions qui seront, bon, j'espère, à la hauteur des évolutions en cours. Merci en tout cas, messieurs, pour votre participation, et mesdames, messieurs, pour ces échanges.
On va intervenir successivement avec Pierre Micheletti. Donc là, on va plutôt rentrer dans les retours d'expérience et voir dans quelle mesure ils peuvent, au-delà de ce qui a été dit précédemment, alimenter la réflexion sur les solutions concrètes à mettre en œuvre sur les territoires dans le cadre fixé. Alors en fait, moi, je n'avais pas prévu d'intervenir, et puis il se trouve que la faculté ayant interdit à Corinne Martinez de se déplacer, de se surmener, dirons-nous, je suis, elle a repris le travail, mais elle doit rester sur Lyon. Donc en fait, je suis reparti de son support pour en extraire un certain nombre d'idées dominantes. Et je l'ai donc validé avec elle, mais les conclusions restent avant tout les miennes pour ne pas la prendre en otage. Et donc l'intervention devait se faire de façon croisée avec Pierre Micheletti. Donc on s'est réagrégé en quelque sorte en dernière minute, parce que c'est vrai que cette matinée, comme l'a dit Gilles, a été un peu compliquée pour diverses raisons. Alors donc j'ai plutôt donc préféré fonctionner sous la forme d'un aide-mémoire. Donc sur quelques thématiques afférentes à la gouvernance. Donc première slide, s'il vous plaît. Alors Corinne était repartie sur une mise en perspective longue du secteur. Je l'ai volontairement simplifié. Et donc si on tire à grands traits sur une première période qui est celle de la circulaire de 60, hop, à la circulaire du 14 mars 90. Ça marche. On remarquera que ça ne fait peut-être pas de mal de le rappeler dans les circonstances actuelles où on entend parfois un peu tout et n'importe quoi, s'il faut parler comme ça. Donc que le secteur recouvre une organisation des soins donc dite communautaire, qu'on définira avant tout comme une réponse de prise en charge globale de premier niveau. Donc on s'inscrit déjà dans cette filiation. Un cadre territorial défini sur la base d'un critère populationnel. Je vous fais grâce des définitions populationnelles que vous connaissez par cœur. Le soin sanitaire est confondu avec la psychiatrie, constitue donc un élément parmi d'autres de la lutte contre la maladie mentale. Et j'insiste sur ce point, si on reprend y compris les textes du début, puisque ceux-ci semblent, tout au moins dans l'actualité, avoir été quelque peu oubliés. On parle bien y compris de réadaptation, de prévention, etc. Et puis, il y a cette volonté de prise en charge en coordination avec les autres acteurs de la santé, donc dans le cadre de réseaux. Et c'est peut-être, si on se penche sur ce qu'on fait aujourd'hui dans nos établissements, la partie qui est restée la moins aboutie, puisque on continue quand même à faire beaucoup de choses nous-mêmes qu'on aurait pu faire ou faire avec les autres. Donc, chaque interrogation m'appartient, bien que, en général, Corinne Martinez m'ait dit qu'elle les partageait, mais je les assume, elles ne sont pas iconoclastes pour partie. C'est-à-dire qu'en fait, je ne comprends pas aujourd'hui, en termes de cohérence intellectuelle, comment on peut, pour ce qu'on entend et ce qu'on peut lire, défendre de façon conjointe le secteur dans une forme 1960, en quelque sorte une forme pure, et toujours faire retour sur le fait qu'il faut se recentrer impérativement sur la psychiatrie, que la santé mentale serait à toucher avec des pincettes et de très loin, parce que quand je lis la définition du secteur à l'origine, elle me semble renvoyer tout autant, si ce n'est plus, à la santé mentale qu'à une psychiatrie qui se confierait uniquement en son sein, en quelque sorte. Alors, donc c'est l'autre.
C'est la flèche qui est vers toi. En fait.
Ouais. Okay. Voilà. Bon, ensuite, là aussi, classiquement, hein, puisque ça se voulait un balayage de choses que l'on connaît dans une large mesure, Donc la question qu'on s'est posée, c'était de voir comment finalement on était passé du secteur au territoire. Et si c'était vraiment le cas, puisque ce territoire, on le met un peu à toutes les sauces, on le prend sous différentes acceptions, sachant que, comme ça a été évoqué un peu précédemment par Christine Bronek également, on a pris grand soin de ne pas risquer de se perdre dans la question de la définition des échelles de territoire, qui est sans doute un sujet sans fin, et autour duquel on pourrait focaliser la totalité de la discussion. Ça, on est très doué pour ce faire. Alors, donc simplement rappeler que de la loi du 4 septembre 2003 jusqu'à la loi HPST, donc on voit petit à petit dans notre domaine d'activité la notion de territoire, soit à titre général, soit à titre plus spécifique, prendre petit à petit le rang en quelque sorte, la priorité sur la définition ou le recours à la notion de secteur, tout au moins en termes de sémantique, mais que la loi du 5 juillet 2011, pour ce qui nous concerne plus spécifiquement, reprend la référence à la sectorisation. Donc on a toujours cette forme d'ambiguïté qui nourrit après beaucoup d'interprétations, mais ça, vous le savez aussi. Donc on rappellera ce qu'il en est de l'article 13 du projet de loi de santé, sans le citer complètement. Et là encore, la deuxième interrogation, elle est assez benoîte, cette interrogation, c'est de se dire que, après tout, quand on regarde l'évolution sur un temps long, ou plus court sur la dernière grosse décennie, c'est à se demander si ce débat secteur-territoire n'est pas finalement un débat superflu si on s'attache aux missions, parce que la question des missions, elle n'a pas vraiment varié. Et à partir de là, si là encore certains ouvrent un débat sur le secteur plutôt que sur le territoire, souvent pour récuser le territoire qui serait un phénomène de dilution multiple et notamment des acteurs, des missions, que sais-je encore, c'est sans doute qu'il doit y avoir un sens caché et d'autres objectifs que ceux dont on parle, c'est souvent comme ça. Troisième slide, donc un propos plus personnel, de réflexion comme ça que j'ai inséré sur cette question du parcours. L'année dernière, dans nos journées, qui évoquaient déjà le concept de territoire, puisqu'on était plus dans la territorialité, on s'était posé, enfin on était toujours dans le distinguo entre parcours de soins et parcours de vie, bon, qui certes a sa réalité, mais que je trouve conceptuellement très inopérant. Mais c'est un point de vue tout à fait personnel. Et moi, je me félicite plutôt qu'on en vienne à parler de parcours de santé à partir du moment où le sanitaire ne s'approprie pas la santé et que je prendrai donc personnellement dans une acception très large. Alors, si je parle d'un distinguo qui est inopérant, c'est le contournement auquel on se trouve confronté dès lors que nous sommes victimes, en quelque sorte, d'un partage organique des compétences, on le sait, entre sanitaire et handicap. Spécificité qui n'est pas uniquement française, mais qui n'est pas partagée non plus partout. Et on sait que cette segmentation du parcours de soins et du parcours de vie, à mon avis, ne saurait rendre compte de la complexité de la réalité des prises en charge. Donc, raisonnons globalement, considérant que le parcours de santé, c'est quelque chose de global, que les définitions peuvent varier sans doute selon les acteurs, mais qu'à un moment donné, on est bien sur un parcours qui va devoir nous réunir, à la fois dans sa définition générale, comme dans son application à chaque cas particulier de prise en charge. Ensuite, donc je reviens sur un propos qui avait été porté par Corinne Martinez, et donc une tentative de définition, je ne vais pas développer, ça a été évoqué précédemment, donc de ce qu'est le service territorial en termes d'offre de services, hein, de la part d'offreurs en santé, là encore au sens large, donc sous la régulation de l'ARS. Alors ça pose effectivement, ça a été évoqué aussi, la question des outils, hein, j'ai sauté certaines parties. Bon, le diagnostic territorial a été évoqué, la contractualisation avec le contrat territorial de santé et puis les conseils territoriaux de santé. Donc très rapidement, je considérais qu'il y avait trois interrogations qui s'y attachaient. Je pense qu'il faudra qu'on en rediscute parce que je trouve personnellement que les textes ont quand même varié, c'est peut-être qu'une perception depuis l'origine des débats, entre une assez grande liberté d'organisation laissée aux acteurs de terrain et puis à chaque évolution l'intuition, le sentiment, la perception. Je ne sais pas si c'est la lecture qu'il faut à tout prix avoir ou si c'est une crainte mal fondée, de voir petit à petit, effectivement, une logique plus centraliste, mécaniquement, et reprendre petit à petit la main, et en particulier à l'échelle de l'ARS. Je dirais, du point de vue des personnes, ça ne me pose pas de questions, parce qu'on est une région où on travaille en bonne intelligence, où on fait des choses en commun. Donc on est bien sur une question de principe et une question de jeu d'acteurs. La problématique n'est pas tellement les commentaires qu'on peut faire autour, c'est à un moment donné ce qui figure dans le texte. Je pense en particulier, certes ça a été souligné, que le diagnostic territorial en santé, il faut absolument qu'il soit fait par les acteurs si on veut qu'il se passe quelque chose derrière, qui est ensuite des impulsions, des méthodes, etc. C'est normal de la part de l'ARS. Je crains en revanche que dans certaines régions, on retrouve des formes de diagnostic qui sont pilotées d'en haut et qui ont peu de rapport avec les situations locales concrètes, et surtout qui sont désimpliquantes des acteurs, et en particulier de ceux qu'il faudrait faire venir autour de la table et qui n'y sont pas spontanément. Parce qu'on dira par exemple peut-être que les élus, certes à certains endroits, s'impliquent ou commencent de le faire, c'est quand même pas une affaire qui est gagnée d'avance de partout. Alors la première interrogation, c'est donc celle-là, cette dialectique du centralisme régional et de l'autonomie des acteurs du territoire. Ça revient de façon récurrente. La cinquième interrogation, c'est qu'on pourrait espérer, et ce n'est pas qu'une question d'échelle des territoires, pour parler d'une région où les territoires sont vastes et non départementaux, donc des conseils territoriaux qui soient plus utiles que les conférences de territoire. J'ai le sentiment, pour dire les choses comme ils sont, que pratiquement tout le monde y perd son temps et qu'on est là aussi, et pourtant ça incrimine pas les acteurs eux-mêmes, les individus, dans des logiques complètement descendantes où l'ARS fait de la communication, présente des documents ou des supports de travail, mais je n'ai pas discerné personnellement, puisque j'y siège au titre de suppléant du DG du CHU de Grenoble sur le territoire Est. Je n'ai pas discerné dans le conseil territorial de santé de mon territoire quelque chose qui nous rapproche du concept de démocratie sanitaire, pour dire les choses comme je le pense. Sixième interrogation, le contrat, bien sûr, est nécessaire, tel qu'il a été défini, mais je pense que si on parle de gouvernance, si on parle de projet, si on parle de pilotage, je pense qu'on ne peut pas imaginer, ce qui nous renvoie d'ailleurs peut-être à certaines interrogations, même si le périmètre des acteurs était plus limité, à certaines interrogations du premier rapport Couty, hein, celui qui nous concernait très directement. Je ne pense pas qu'on puisse se limiter à une approche contractuelle, et notamment, on a évoqué tout à l'heure les acteurs les plus impliqués. Je pense que ceux-là ont besoin de modes de gouvernance et de pilotage sans doute plus intégrés qu'une simple approche par contrat. Pour terminer, mais ce sera très très rapide, dans les débats qu'on a entre nous, notamment au BNE ou autour, on s'aperçoit qu'il y a sans doute quelques révolutions culturelles à organiser, parce qu'on n'est pas tout à fait tous sur la même longueur d'onde, on n'a pas tout à fait tous les mêmes perceptions. Je pense que c'est pas propre aux établissements psychiatriques. Il sera sans doute difficile pour l'hôpital, on le voit, de ne plus penser au centre du dispositif, puisqu'on voit que certains imaginent qu'on va se positionner sur le territoire et que l'hôpital continuera d'être acteur majeur. C'est pas tout à fait le cas. On va devoir apprendre à être un acteur parmi d'autres, ce qui n'est pas tout à fait spontané non plus. On constatera, là encore à titre de retour d'expérience, que dans bien des cas, même si c'est variable d'une région ou d'un territoire à l'autre, les contrats locaux de santé, outils qui étaient quand même essentiellement dédiés à l'initiative de la collectivité locale de l'ARS, ont souvent peu associé, donc peu mobilisé les hôpitaux, sans généraliser pour autant, parce que là aussi les situations ne sont pas toutes homogènes. On voit là aussi que où les CHT sont passées, elles sont peu passées en psychiatrie, on le sait, et notamment entre hôpitaux psychiatriques, mais était-ce un mal sur ce point. On voit quand on passe à l'application, je peux en témoigner personnellement, que les outils de pilotage transverse font défaut aux ARS. Et la question effectivement du pilotage de projets et de contrats de territoire qui soient transverses à l'ensemble des acteurs dans la dimension de contractualisation, pour éviter la logique en tuyau d'orgue et de repasser par la contractualisation avec chacun des établissements. Je ne vais pas développer, mais on s'aperçoit qu'aujourd'hui, on repasse sur notre CHT par le CEPOM de chaque établissement et qu'il faut que les uns et les autres, certes, on s'en sort pas trop mal, qu'on vérifie qu'on est en cohérence sur chacun des CEPOM. C'est pas tout à fait top. La piste des contrats de modernisation avait été présentée, c'est pour mémoire, par Corinne Martinez l'année dernière. C'est sans doute un outil plus intéressant et qui ressemble plus au contrat territorial puisqu'il est plus réacteur. Le dernier point a plutôt trait, mais ça a déjà été évoqué, à cet accord qui se faisait autour du virage ambulatoire du système de santé, donc je ne vais pas le redévelopper. Simplement, pour insister sur le dernier point, c'est qu'on voit bien comment, ça on en parle souvent, ça impacte notre offre et nos structures de soins en tant qu'établissement psychiatrique, mais ne nous cachons pas non plus qu'à partir du moment où notre offre devra se recomposer, ceci interfère aussi avec les phénomènes de concentration hospitalière par territoire ou par filière, et la question pour nous de savoir si la concentration des établissements ou le rapprochement d'établissements se fait plutôt par territoire ou par filière, elle n'est pas aussi simple et aussi naturelle que cela. C'est la 7e interrogation. Et puis, pour terminer, j'avais rajouté un point, mais c'est juste pour aller à la fin. Donc ça, c'est un point qui est venu du fait du défaut d'intervenants plutôt sur les organisations et sur les systèmes. J'ai, pour préciser les choses, eu beaucoup de contacts avec des intervenants issus du milieu académique, universitaire, mais aucun n'était disponible. Et finalement, on voit qu'une partie du débat, on l'abordera tout à l'heure sur la question de la recherche, était sans doute un peu prématurée. Et donc, quand on reprend notamment certains travaux qui ont été menés du côté de l'EHESP, j'avais repris, mais je ne vais pas le développer, une vision un tout petit peu plus historique de l'évolution qui, finalement, historiquement, éloigne les différents acteurs du territoire, ou tout au moins où chacun, finalement, se définit par un territoire à lui, qui est très souvent un territoire cloisonné, séquencé par rapport au territoire du voisin. Donc ça ne fait pas espace global et ça ne fait pas coordination, puisqu'on arrive sans doute à une situation, après tout, qui est celle qu'on a connue pendant des décennies et qu'on connaît encore beaucoup. C'est le patient qui coordonne son parcours et qui coordonne ses soins en faisant en sorte de demander du soin et de passer de l'un à l'autre. Ensuite, l'émergence du territoire, c'est celle qu'on connaît bien, je ne la développe pas. Et finalement, on arrive à une question qui là aussi n'est pas si benoîte que ça, en quelque sorte. C'est qu'à partir du moment où nous sommes, on parle beaucoup de territoire, finalement. On est encore beaucoup dans cette dimension territoriale d'organisation du territoire, mais on voit bien que la question qui émerge aujourd'hui, c'est celle du parcours, avec l'interrogation légitime, même s'il y aura toujours espace, s'il y aura toujours territoire, qui ne seront pas forcément homogènes, emboîtés les uns dans les autres, de savoir si finalement ce dont on doit pas d'abord parler, c'est le parcours de santé, en se disant que le territoire qui reste... y compris organiquement, en quelque sorte, notre préoccupation première, n'est pas entrée dans une phase d'effacement progressif ou tout au moins relatif au profit de ce qui va faire sens, qui est d'abord le parcours. Donc voilà les éléments de synthèse qu'on s'était donnés.
D'accord. Merci, Pascal. Alors, effectivement, c'est sûr que dès qu'on parle de territoire, ça pose la question de la frontière. Et donc, qui dit frontière dit quand même un peu contradiction avec le principe du parcours. Donc, c'est toute la question de savoir si, effectivement, le secteur est un territoire suffisamment vaste pour ne pas être un obstacle au bon fonctionnement du parcours de soins et, a fortiori, de santé. Docteur Micheletti, je vous passe la parole. Merci.
Pour combien de temps ?
10 minutes, si possible.
10 minutes, si possible. Merci pour l'invitation. Je vais faire... deux remarques préalables et puis peut-être bousculer un peu l'intervention que j'avais prévu de faire. La première remarque, c'est un clin d'œil en disant que finalement la santé publique et puis l'histoire de la santé internationale est en train d'organiser une sorte de rééquilibrage parce qu'en fait, tout le débat qu'on a aujourd'hui sur la nécessité de penser l'accès à la santé dans une logique d'ancrage territorial, je ne peux pas m'empêcher, en réfléchissant à toutes ces questions, de penser aux reproches qu'on avait fait aux grandes puissances coloniales dans les années 60 d'essayer d'imposer dans les pays nouvellement indépendants, un mode d'organisation des soins qu'on avait qualifié d'éléphant blanc. Et puis très vite, les pays émergents ont dû abandonner ce modèle de développement pour revenir à la notion de soins de santé primaire, d'offre de soins de premier recours. Et quelque part, ce dont on discute aujourd'hui, c'est la revanche des éléphants blancs ou la revanche sur les éléphants blancs, puisqu'on se pose des questions aussi basiques à partir du constat que l'hôpital ne peut pas tout et ne peut pas tout faire et qu'il doit se préoccuper d'une meilleure connexion avec les territoires. Ça, c'est la première remarque. La deuxième remarque, c'est pour revenir sur le débat qu'on sent en filigrane, secteur, pas secteur, puisqu'on s'intéresse au territoire, quelle échelle ? Et faut-il avoir de longs débats qui nous paralyseraient sur le choix de la meilleure échelle de travail ? Et là aussi, je ne peux pas m'empêcher de penser à toute autre chose qui est le bouquin de Michel Houellebecq sur la carte et le territoire. Il fait dire à un moment donné à son héros principal la carte est plus importante que le territoire, et je crois qu'on est en train de se dire le contraire, même si après, dans son roman, il va nuancer son propos. Le territoire est plus important que la carte, qui n'est qu'une représentation réductrice de la complexité du terrain et des territoires sur lesquels évoluent des personnes et des équipes soignantes. Donc, ne nous prenons pas trop la tête sur les débats concernant les cartes, et focalisons-nous sur les territoires. Et dès lors qu'on s'intéresse au territoire, dans ce qui a été évoqué ce matin, c'est est-on capable de dresser des diagnostics territoriaux susceptibles d'alimenter nos décisions et la prise de décision des politiques publiques sur des quartiers, et ça va être là le centre de mon propos, qu'au fond, on connaît très mal que sont les zones urbaines sensibles. Est-on capable aujourd'hui en France de planifier une offre de soins sur des terrains aussi peu connus de nos politiques publiques et des acteurs de nos politiques publiques? Et ce sont des terrains qu'on ne peut pas négliger, parce que sur la ville de Grenoble, où je réside, ce sont des territoires qui représentent 22% de la population. J'étais hier invité par l'équipe de Vaux-en-Velin au Vinatier, qui est une équipe qui travaille sur un territoire où 67% de la population est en zone urbaine sensible. Donc on n'est pas en train de parler de queue de cerise, on est en train de parler de population urbaine à des volumes très importants. Et comment aussi, ça a été évoqué par Jean de Beaupuy dans sa conclusion, ne pas considérer que, en termes de politique publique, il y a vraiment matière à s'inspirer de la psychiatrie publique. Et ce n'est pas à vous que j'apprendrai que cette psychiatrie publique délivre 75% en moyenne des actes vis-à-vis des adultes en ambulatoire, et plus de 95% de la pédopsychiatrie fait des actes en ambulatoire. Je crois que donc, si on ne sait pas s'inspirer du modèle de la psychiatrie publique comme modèle d'un système de politique publique qui a su sortir de ses murs pour aller au contact des territoires, c'est pas la peine d'inventer de nouvelles usines à gaz qui feraient complètement abstraction de ces expériences antérieures avec leur sujet de satisfaction et leur sujet d'échec. Alors, puisqu'il y a Mme Bronek dans la salle, je vais faire mentir M. Allos, j'ai une demande tout à fait catégorielle à faire, c'est que l'association que je préside à Grenoble, elle fait 150 000 actes. Elle fait 150 000 actes dans les zones urbaines sensibles, et que nous sommes en train de chercher des moyens pour faire des extractions d'informations médico-sociales sur ces 150 000 actes. Quel est aujourd'hui le cabinet de médecine générale qui pourrait faire parler 150 000 actes? Donc, si nous étions soutenus pour faire ces extractions et exploiter ce palpeur incontournable des zones urbaines sensibles, nous en serions très reconnaissants à tous les financeurs potentiels. Alors, le titre de mon intervention que je vais réduire était « Psychiatrie publique et médecine générale dans les zones urbaines sensibles, entre volontarisme politique et engagement individuel ». On va triturer aujourd'hui la question du volontarisme politique, mais on voit bien que ça ne suffit pas et qu'il y a une dimension plus qualitative. Parce que quand bien même les moyens seraient dégagés, quand bien même l'organisation serait repensée pour coller au mieux au territoire, encore faut-il avoir les hommes et les femmes pour faire. Et l'expérience nous prouve, et je vais faire pendant mon exposé le parallèle constant entre la médecine générale et la psychiatrie publique, que nous n'avons pas toujours les hommes et les femmes pour faire, quand bien même les budgets seraient là. D'accord ? Et que spontanément, sur un territoire comme celui de la ville de Grenoble, s'il n'y a pas intervention de la puissance publique, il y a un différentiel d'offre de soins en médecine générale entre les quartiers sud de la Villeneuve et les quartiers commerciaux du centre. Il y a une densité d'offre de soins en médecine générale spontanée dans un rapport de 1 pour 5 entre les quartiers sud et des quartiers commerçants pour 1000 habitants. Voilà ce que donne l'offre de soins libérale non régulée. Je vais y revenir tout à l'heure. Alors, quelques illustrations des coopérations qu'on a pu mettre en place sur la ville pour éventuellement vous faire réagir, en lien avec le centre hospitalier Alpes-Isère et en particulier l'aide de Pascal Mariotti, qui a toujours été ultra ouvert sur ces questions de la connexion avec les territoires. Je ne le dis pas parce qu'il est mon patron, parce qu'il n'est plus mon patron, donc, puisque je ne travaille plus dans son établissement. Donc je le fais vraiment en toute liberté de parole. Et puis l'ARS, donc, ça a revêtu différentes déclinaisons. Une convention de partenariat pour la participation des médecins des centres de santé associatifs à la sectorisation sous forme d'une aide financière de l'hôpital psychiatrique. La mise à disposition par ce même établissement via des financements ARS de la moitié d'un demi-ETP pour travailler auprès des équipes soignantes dans les quartiers. Que fait ce PH auprès des équipes? Il fait des consultations, mais de façon très marginale et plutôt des consultations complexes. Il fait des réunions de supervision avec les médecins généralistes et les infirmiers des centres de santé sur des cas plutôt complexes. Il travaille sur de l'échange de pratiques et de la formation, et il sert de lien entre les acteurs de la médecine générale de première ligne et les autres acteurs spécialisés de la psychiatrie publique. Ça, c'est un exemple de coopération que nous avons eu. Je voudrais aussi illustrer mon propos d'un deuxième exemple de coopération, parce que je sais que les équipes psychiatriques sont confrontées à ces réalités, pour l'avoir encore entendu hier à Vaux-en-Velin, avec l'équipe de Vaux-en-Velin. Nous avons développé en 2013 une étude avec un laboratoire de sociologie dirigé par Serge Pogam, qui est assez connu sur la question d'inégalité sociale, qui pilote un laboratoire qui s'appelle ERIS, l'équipe de recherche sur les inégalités sociales. Et cette étude a cherché à s'intéresser à ce qui apparaissait comme la bonne résilience des équipes de médecine générale, des centres de santé, pourtant immergés dans des quartiers à fort environnement d'incivilité, d'agressivité. Donc l'énigme, pour reprendre les propos des sociologues, était de chercher à éclairer, au fond, qu'est-ce qui conduit à une relative bonne résilience de ces équipes par rapport à ces environnements assez déstabilisateurs, puisque dans cette association, je crois que la moyenne d'âge de nos professionnels est de 8 ans. Qui parmi vous, les directeurs d'établissement, a des équipes dans des CMP en zone urbaine sensible dont la longévité est de cet ordre? Donc c'était l'énigme qui a été menée. Je vous passe les détails, j'ai pas le temps. Ça tourne autour des modalités organisationnelles, ça tourne autour de l'importance des réunions de régulation, ça tourne autour de ce que les sociologues ont appelé un mode de fonctionnement relativement démocratique de la gestion des compétences et de la complémentarité des compétences, plus, bien entendu, d'où le titre de mon exposé, des personnels qui arrivent avec une dimension militante et avec une des préoccupations éthiques pour des populations fragiles. Voilà, donc il me reste encore quelques minutes pour conclure, très peu de temps. Autre problème que je voulais évoquer, alors cette enquête sociologique a été réalisée avec le soutien de l'ARS Rhône-Alpes, et Corinne Martinez en particulier, que je salue malgré qu'elle ne soit pas là, le Conseil général de l'Isère et la communauté d'agglomération, et devrait faire l'objet d'autres développements. Autre préoccupation partagée entre la médecine générale et la psychiatrie publique, qui est la question de l'attractivité de ces professions, et en particulier de l'attractivité, pour faire le lien avec l'enquête précédente, des professionnels pour ces territoires. Alors je vais me centrer sur la psychiatrie publique. Certes, Jean de Beaupuy évoquait à la fin de son propos que la France était le troisième pays pour le nombre de psychiatres en valeur absolue. Mais encore faut-il s'interroger sur l'analyse plus qualitative de ce nombre. Nous sommes à la fois le troisième pays en termes d'offres de psychiatres en France, mais je vous rappelle que les données 2010 montraient que pour la psychiatrie publique, en 2010, 25% des postes de PH hospitaliers étaient pourvus par des personnels non titulaires. Cherchez l'erreur. Si on s'interroge maintenant à la répartition territoriale, pour revenir au thème de la journée, de ces psychiatres français, et si on veut bien admettre qu'ils sont en gros 50% dans le service public hospitalier et 50% en libéral, nous aurions une cartographie très très discriminante. D'accord ? et si on s'intéresse à la présence des psychiatres libéraux dans les JUS, a fortiori. Voilà, écoutez, je pourrais, en sachant que la problématique n'est pas qu'une problématique éthique de la part des psychiatres, on ne peut pas faire ce constat sur les déséquilibres territoriaux de la présence des PH, en négligeant le fait que la psychiatrie, comme toutes les spécialités médicales, n'échappe pas à la tentation d'une hyperspécialisation. Hein, il y a les spécialistes des TCA, les spécialistes de la schizophrénie, les gérontopsychiatres, etc., etc. Il n'y a aucune raison que les PH hospitaliers échappent à cet intérêt pour des niches de compétences spécifiques. Mais restera-t-il des soutiens pour la psychiatrie générale, et en particulier, restera-t-il des soutiens pour la psychiatrie générale dans les JUS? J'espère que le débat de tout à l'heure vous donnera la parole sur ces questions. Merci beaucoup.
Merci, docteur Micheletti. Je vous propose qu'on enchaîne sur l'exposé de Madame Achard Noé, puisque en fait tous ces exposés successifs tournent autour des mêmes préoccupations, et ensuite on pourra donner la parole à la salle pour des questions. Oui, et puis Madame Front de Bouchonny peut monter également à la tribune. Donc, Madame Achard Noé, maître de conférence à l'Université de Toulouse. Donc, je vous donne la parole.
Merci pour l'invitation à ce travail. Bon, je suis de Toulouse. IFERIS, c'est un institut qui rassemble 18 laboratoires qui travaillent en interdisciplinarité. Donc, ça va très vite. Et je fais ça j'ai fait ce travail sur les contrats locaux de santé. Peut-être que je ne parle pas au bon endroit. Voilà. Sur les contrats locaux de santé avec une collègue de Poitiers, donc je vais passer très vite sur les présentations. Alors, qu'est-ce que je fais? Vous me dites, je pointe sur vous.
Sur celui qui pointe vers vous.
Ah, voilà. Ça va, oui, évidemment. Voilà. Oh, ça marche extraordinaire. Alors, je vais essayer de tenir les temps imposés. On est sur un programme de recherche qui a été financé, on annonce toujours les financeurs, par l'Agence nationale de la recherche sur la question de l'évaluation des politiques publiques de santé. Je le cite parce que ces travaux sont très recherchés en ce moment et posent d'énormes questions. Ça fait 3 ans que nous travaillons et nous allons refaire un appel à projet. Financé également par l'INCa sur la question des inégalités sociales de santé face au cancer, sur les politiques préventives, et financé également ou soutenu plus légèrement, mais il faut le dire quand même, par l'ARS Midi-Pyrénées sur cette question des, finalement, ces contrats locaux de santé. Dites-nous comment il faut faire pour les signer vite, quoi. Voilà la question de départ de l'ARS Midi-Pyrénées. Donc on a tenté de répondre à cette question en la problématisant un peu plus sur la question des contrats d'action publique, dont on sait qu'ils sont très complexes et qu'ils ne résolvent pas l'ensemble des problèmes à partir du moment où on dit contrat. C'est l'inverse du mot magique, quoi, globalement. Donc. Alors j'ai été sollicité, je remercie Monsieur Mariotti, parce qu'il a lu un papier assez court que nous avons publié dans la revue de l'INPES sur ces contrats locaux de santé. Et donc le terrain d'étude s'étend sur 8 contrats signés à ce jour en Midi-Pyrénées, en essayant de comprendre non pas quel est le modèle de gouvernance territoriale. Je mets beaucoup de guillemets à gouvernance, je suis sociologue et politiste, donc pour moi c'est pas un concept, c'est une grille de lecture simplement, et c'est pas un concept qui s'applique avec des bonnes recettes, voilà, donc je précise un certain nombre de choses. Deuxièmement, la question que nous nous posons surtout, c'est comment se construisent ces accords contractuels entre une agence régionale de santé qui est souvent prise pour, non pas une agence, mais un représentant de l'État territorial. Il y aurait beaucoup à dire sur la question de l'agencification en France. Et deuxièmement, des acteurs locaux qui agissent dans le domaine de la santé, et particulièrement les élus locaux, qui, bien qu'ayant peu de compétences, on va dire, pour aller très vite, agissent soit directement avec des services de santé, mais très peu nombreux, soit indirectement par d'autres politiques, politique de transport, politique de l'habitat, etc., ou politique sportive, quelquefois, ou politique sur l'alimentation, etc. Donc l'idée, c'est que la question qui me préoccupe dans les travaux de recherche, c'est d'essayer de comprendre quelles sont les conditions qui sont favorables à la construction des accords entre ces partenaires, avec toujours des guillemets, excusez-moi, je suis sociologue, qui permettent de se dire finalement quels sont les freins, qu'est-ce qui résiste à ces travaux contractuels et à ces partenariats que l'on veut tout le temps, multipartenariaux, interniveaux de gouvernement, sur des territoires, entre guillemets, pertinents, etc. Donc c'est une très très grande complexité. Je vais beaucoup simplifier mon propos pour vous dire globalement quels sont les résultats de ces 3 années de recherche que nous continuons sur l'évaluation qualitative de ces processus de contractualisation, finalement, dans le domaine de la santé. Alors si je marche, si je fais ça...
Ça marche ?
Ah, ça marche. Donc je reprendrai volontiers les propos du rapport de Madame de Victor en disant que la question centrale qui se pose dans ces contrats, qui s'appellent contrats locaux de santé ou contrats territoriaux de santé, c'est d'essayer de faire quelque chose qui ne soit pas une régionalisation descendante, c'est-à-dire une ARS qui s'impose comme donnant ses ordres, finalement, hein, au territoire, ça ne marche pas, et à l'inverse, qui ne soit pas non plus un contrat qui n'écoute que ce qui vient du bas, c'est-à-dire une territorialisation ascendante. Et tout le risque et toute la difficulté des contrats, c'est de résoudre cette énigme-là, c'est-à-dire cette rencontre entre ce qu'on appelle en politique très rapidement une politique qui descend et une autre qui monte, hein, ce qu'on appelle top-down ou bottom-up. Alors, dans les travaux que j'ai pu mener sur ces programmes de recherche sur les contrats locaux de santé en Midi-Pyrénées, il semble, je suis très prudente, qu'il y a 6 conditions qui favorisent la construction d'accords négociés. Le papier qu'on a publié avec ma collègue consiste à prendre 2 cas contrastés que l'ARS nomme elle-même. D'un côté, c'est un cauchemar, et de l'autre, une belle réussite. Alors, on a essayé de saisir un peu que recouvraient ces catégories indigènes sur les processus qui permettent d'aller signer, de façon négociée, un contrat local de santé ou territorial de santé. Donc, 6 conditions favorables qui sont les suivantes. Là aussi, je vais très très vite. Ça marche. Alors, 3 premières conditions, c'est premièrement l'importance des élus locaux. C'est-à-dire, s'il n'y a pas des élus locaux qui sont sensibilisés déjà sur les questions de santé et particulièrement sur les inégalités sociales de santé, l'ARS n'arrive à rien. Elle se heurte au mieux à l'indifférence, au pire au conflit direct avec les élus locaux qui ont aussi quelques compétences, et là je parle des conseils généraux dans le domaine médico-social. Donc un premier élément, c'est le portage politique des élus locaux, quel que soit le niveau, qui sont déjà sensibilisés et qui veulent bien agir avec l'État territorial. Donc, premier élément. Deuxième élément, deuxième condition favorable, l'articulation permanente au cours de la démarche entre le projet régional de santé, quel que soit son nom, c'est-à-dire ce que l'ARS veut mettre en œuvre dans sa région, et ce que les collectivités ou les territoires mettent déjà en œuvre. C'est-à-dire essayer de trouver des articulations très fines, dès le début des négociations, sur certains éléments du projet régional de santé qui pourront déjà être articulés avec des projets locaux. Ça, c'est un élément clé. Il est hors de question de pouvoir plaquer quelque chose. Il y a eu quelques échecs cuisants en Midi-Pyrénées, mais dans d'autres, je peux mettre Midi-Pyrénées en avant, hein, c'est aussi une ARS qui fonctionne bien, mais il y a eu des échecs cuisants sur la question de l'application ou du plaquage d'un plan régional de santé sur des thématiques qui n'intéressent pas les territoires parce qu'ils n'ont pas les problèmes, justement, de ce plan régional de santé. Troisième élément, on en a déjà parlé, je vais passer très vite, c'est un élément essentiel. Le diagnostic n'est pas juste un exercice universitaire ou de chiffres ou de bons diagnostics. C'est un élément de la négociation parce que ça repose à la fois sur des données quantitatives, et ça on sait où elles sont à peu près, quand on arrive à les obtenir on peut faire un... mais surtout sur des éléments qualitatifs de rencontre avec les professionnels de santé, un prix au sens large, hein, locaux. C'est-à-dire l'idée à un moment donné que ceux qui connaissent le mieux le territoire, c'est ceux qui y agissent et qu'il faut intégrer dans ces diagnostics, quelquefois piloté d'en haut par l'ARS, intégrer des diagnostics qui font remonter des informations et des besoins exprimés par les professionnels de santé et bien entendu par les populations quand on y arrive. C'est plus rare, mais quelquefois on y arrive. Diapo suivante, Monsieur Moulin, vous me tenez le chrono. Diapo suivante, les 3 autres éléments, je suis allée trop loin. Alors je fais l'inverse pour aller en arrière. Voilà. Trois autres éléments qui sont des conditions favorables, plus sur le plan organisationnel, c'est sur la question des instances, finalement, c'est-à-dire de ce que l'on entend, enfin, sur les conseils locaux de santé, les conseils territoriaux de santé, leur rôle, etc. C'est un élément important, et ce n'est pas que du mécano organisationnel, bien évidemment. Le premier élément, c'est la mise en commun de ce diagnostic partagé permettra de choisir les axes les plus stratégiques pour ce territoire-là et pas un autre. C'est-à-dire, l'idée, à un moment donné, c'est qu'on arrive à une très forte définition d'axes prioritaires qui concernent les besoins des populations et des territoires sur lesquels on est. Deuxième élément, les instances opérationnelles. Alors, souvent, dans les contrats locaux de santé, on a deux niveaux de gouvernance. On a une gouvernance stratégique, on va dire, politique, et une gouvernance plus technique. Ça ne veut pas dire qu'elles sont, elles sont pas reliées, bien entendu, mais, disons, elles n'ont pas tout à fait le même travail. Si les premières, le premier niveau de gouvernance consiste à prendre, à faire des choix stratégiques et à les faire valider, il serait dommageable, du moins de mon point de vue, hein, c'est mon point de vue de chercheur, que l'ARS impose ses choix. C'est-à-dire, ça marche pas. Avec les élus locaux en face, ça marche pas. Quand vous avez des conseils généraux qui font 65% de leur budget sur le médico-social, ça marche pas. Donc, ça veut dire que, bien entendu, les choix stratégiques qui sont à faire, ils sont à négocier entre les acteurs qui sont présents sur les territoires et l'ARS. Instance opérationnelle, c'est celle qui fabrique finalement les actions, qui fabrique des programmes d'action, ou on appelle des fiches actions, ou tout autre type de planification finalement de l'action. On a aussi là des conditions à minima. Les conditions à minima consistent à faire travailler les acteurs en coopération et donc à écouter ce qu'ils ont à dire sur les besoins du territoire. Alors, si vous avez la curiosité d'aller lire ce qu'on a pu publier, vous verrez qu'un des échecs assez cuisants, c'est d'avoir essayé de plaquer des fiches actions du programme régional de santé sur des territoires qui n'en voulaient pas. Donc, forcément, ça ne marche pas, quoi. Donc, les instances opérationnelles, elles ont aussi un rôle, finalement, stratégique et politique, sauf qu'elles s'appellent techniques, mais le technique n'est jamais loin du politique. Et enfin, dernier élément, et je suis d'accord avec ce que j'ai entendu jusque-là, la question du périmètre. Et je reprendrai un peu les propositions, Madame de Victor, ça tombe bien que vous soyez là, parce que je trouve que la question de définir le périmètre en avançant, et non pas a priori, est un élément essentiel du débat. C'est-à-dire qu'on ne peut pas définir le périmètre en fonction des densités de population. On sait bien qu'en Midi-Pyrénées, le fin fond des vallées ariégeoises, ce n'est pas les zones urbaines sensibles de Toulouse. Donc on ne peut pas définir les mêmes périmètres. Mais par contre, on peut les négocier en fonction des ressources du territoire et des choses qui sont déjà là. Et ça, c'est un élément important parce que ça fait conflit de la question de territoire. Même si on veut l'évacuer, elle fait conflit. Il y a des territoires d'élection derrière, il y a des territoires d'action des professionnels, il y a des territoires de recrutement des établissements de santé. Donc, en fait, on ne peut pas l'évacuer complètement à travers la notion de parcours parce qu'il reviendra, si vous le jetez par la porte, ça fait qu'en fait, il revient par la fenêtre ou l'inverse, si vous voulez. On est en avance ?
Le temps avance.
Ah oui, donc je vais finir. C'est ma dernière. Ça m'étonne d'être en avance. Donc, dernière chose. Donc, en fait, ce qui se joue dans un contrat local de santé, ou co-territorial, hein, m'excusez du peu, c'est globalement qu'il faut pouvoir y trouver des points d'intérêt communs à des acteurs qui ont des intérêts forcément à un moment donné différents. C'est un élément clé. Donc, il y a des nœuds de conflit qui sont permanents sur le territoire, sur les financements, sur les objectifs, etc., sur les modes de professionnels de travail. Et le deuxième élément qui me paraît essentiel, c'est qu'on ne peut pas faire du prêt-à-porter. Ça paraît une évidence, mais encore faut-il le rappeler à certains acteurs, y compris hospitaliers, y compris professionnels, y compris les agences régionales ou les délégations territoriales, qu'on ne peut travailler sur la territorialisation que si on fait du sur-mesure. On ne peut pas faire des choses qui s'impose. Et donc, de mon point de vue, alors là, c'était plus pour ouvrir le débat, le CLS, ça peut être une fenêtre d'opportunité, mais il faut qu'elle le soit pour l'ensemble des acteurs qui sont là, aussi bien les élus locaux que les professionnels de santé au sens large, que l'agence régionale de santé. Donc, trouver les liens possibles qui vont intéresser ces trois acteurs en même temps. Et c'est aussi un risque de régionalisation ascendante qui éviterait de parler du territoire. Puisque les acteurs du territoire, ils ont envie de parler de leur territoire sur lequel ils agissent. On ne peut pas l'évacuer aussi facilement. Voilà. Et donc, il y a un certain nombre d'incertitudes aussi qui posent problème, particulièrement celle des financements dits conjoints. Là, c'est un vrai problème. et sur la concurrence, la mise en concurrence par des types de financement uniquement sur appel à projet des opérateurs locaux. J'ai travaillé beaucoup à interroger les opérateurs locaux qui sont mis en concurrence et qui ne savent plus comment agir parce que le seul moyen pour l'instant de financer ces contrats, ce sont des appels à projets. Et donc c'est un vrai problème pour les opérateurs et les plus faibles d'entre eux, les plus faibles d'entre eux du point de vue organisationnel. Ceux qui ont fait des cours de management, ils savent remplir les appels à projets. Ceux qui agissent sur le terrain, ils n'ont pas le temps. Voilà, donc on est un peu... Voilà, je vous remercie de votre attention. Je suis allée peut-être un peu vite.
Merci voilà. Beaucoup. Je crois que bon, ça montre bien l'intérêt d'outils auxquels nous, les hospitaliers, nous ne sommes pas toujours sensibilisés ou formés. C'est l'analyse sociologique qui permet de mieux cerner l'intérêt à agir des différentes parties prenantes d'un projet. Et bon, cet intérêt à agir, c'est ce qui favorise finalement l'effectivité du travail sur le terrain, et y compris des outils juridiques comme les contrats. Madame Trondebouchoni, je vous passe la parole.
Oui, merci. Donc, je voulais préparer un PowerPoint, mais la technologie m'a fait défaut hier et je m'en excuse. Je vais peut-être introduire mon propos en me présentant. Donc, je suis coordinatrice santé pour la ville de Mulhouse, ce qui est un statut un petit peu particulier par rapport à votre rencontre aujourd'hui. Mon métier, c'est de mettre en lien, de fédérer les acteurs locaux, de soutenir les initiatives et les porteurs de projets. Je suis chargée aussi pour la ville de la mise en œuvre et de l'évaluation du contrat local de santé et plus récemment du volet santé du contrat unique de la politique de la ville. Alors, mon champ d'intervention, c'est la ville de Mulhouse. Je travaille pour une collectivité, donc une collectivité territoriale qui n'a pas dans ses compétences réglementaires de véritables compétences en matière de santé, si ce n'est sur des champs très très spécifiques relatifs à l'hygiène ou aux hospitalisations d'office. Mais voilà. En tout cas, la ville de Mulhouse, depuis 1991, s'est inscrite dans une démarche volontariste en promotion de la santé, en adhérant au réseau français des villes santé de l'OMS et en développant une politique territoriale autour de réseaux santé de quartier, en souhaitant en fait développer la participation active des habitants à la politique de santé et en particulier dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Le territoire de Mulhouse, parce qu'on parle de santé et territoire, et donc aucun territoire ne se ressemble, il n'y a pas de réponse standardisée pour tous les territoires. Mulhouse, c'est une ville transfrontalière qui compte à peu près 120 000 habitants. Elle est riche et elle est en même temps fragile, riche de 132 nationalités, deuxième ville la plus jeune de France, une belle dynamique associative et beaucoup, beaucoup d'acteurs très impliqués. Et en même temps, plus de 40% à peu près 40% de la population qui réside en quartier prioritaire de la politique de la ville, et une ville qui regroupe, donc sans parler de la couronne, 45% des bénéficiaires du RSA du département. Donc des enjeux qui sont très complexes, avec aussi des écarts entre les plus favorisés et les moins favorisés qui sont de l'ordre de x15 en termes de revenus annuels. Alors la question de la participation dans le champ de la santé, elle se pose parce que la santé en soi, c'est un enjeu qui est extrêmement à la fois individuel et collectif et qui relève du champ politique au sens noble du terme. Alors, individuel, parce que, comme le rappelle la charte d'Ottawa, la définition de la bonne santé, elle est propre à chacun de nous. C'est pas une définition qu'on peut normer, c'est pas une définition qu'on peut appliquer à tous. Chacun définit ce qui est pour lui la bonne santé en fonction de son projet de vie, de ses aspirations. Je pense que si on faisait un tour de la salle en disant est-ce que vous vous sentez en bonne santé, on aurait des réponses tout à fait différentes, mais vous le savez très bien. L'idée, c'est, à travers ce propos, de rappeler qu'une approche normative de ce qu'est être en bonne santé n'a aucun sens, étant donné la multiplicité des définitions et le fait que ça renvoie véritablement chacun à ses propres représentations et aspirations. Et la dimension collective, c'est parce que là non plus, rien de nouveau, mais c'est quand même important de le rappeler, la santé, ce n'est pas la conséquence de facteurs biologiques ou uniquement comportementaux et liés à un déficit d'information de la population. Ça renvoie chacun à ses conditions de vie et notamment le fait d'avoir un travail, de ne pas avoir un travail, le fait des conditions de travail, le fait d'avoir un environnement de qualité, un environnement pollué, moins pollué, son niveau d'éducation, le tissu social, la qualité du système de santé. Bref, ce qui va influencer sur la santé de la population, c'est avant tout des enjeux qui sont sociétaux et qui renvoient bien à la politique et à la gestion plus généralement de la vie publique. Voilà. Donc, je trouve important, et on trouve important à Mulhouse, de rappeler en fait cette dimension politique de la santé, parce que c'est une dimension qui est de plus en plus oubliée et dont les citoyens ont progressivement, et se sont progressivement aussi, destitués, parce qu'ils ont confié cette mission de la santé uniquement au système de soins. Mais aujourd'hui, la politique, comme on la pense, elle me semble, en tout cas, de plus en plus définie autour d'un objectif, d'un enjeu de réduction des maladies, alors qu'on clame quand même assez régulièrement que la santé, c'est un état de complet bien-être, ce n'est pas uniquement l'absence de maladies. Mais pourtant, on est quand même sur un enjeu majeur de réduction de la prévalence de certaines pathologies. Alors, pourquoi dans cette configuration, la participation des habitants est un enjeu essentiel? Ben justement parce que dans la définition de nos politiques de santé publique, et notamment en matière de prévention et de promotion de la santé, comme je le disais, on cible la question de la maladie. Alors on cible la question, par exemple, du surpoids et de l'obésité chez l'enfant en conduisant des campagnes, et on le fait à Mulhouse, hein, des campagnes qui peuvent être coûteuses, qui mobilisent énormément de moyens et d'énergie, en particulier humains, pour favoriser l'activité physique dans les écoles, l'information nutritionnelle, etc. Cela dit, quelle est la pertinence de ces campagnes quand on n'a pas travaillé avec les familles et en particulier avec les personnes qui sont les plus éloignées de la compréhension de ces messages d'information sur pourquoi finalement l'enfant du foyer mange pas de manière équilibrée et surtout pourquoi il sort pas, pourquoi il va pas faire du sport, pourquoi il bouge pas plus, pourquoi il reste devant la télé. Ben oui, quand on discute avec les familles, ça renvoie à des questions liées à la sécurité. Moi, je veux pas que mon enfant descende en bas, j'ai trop peur pour lui. Ça renvoie à des questions liées au manque de confiance en les infrastructures sportives. Ça peut renvoyer aussi justement au fait que les structures sont pas accessibles, les structures sportives sont pas accessibles, réservées aux élites. Enfin voilà, il y a les problèmes de santé ont de multiples causes et on ne peut pas imaginer en venir à bout avec notre simple regard professionnel. Il faut pouvoir confronter l'expérience professionnelle, les problématiques statistiques de santé et croiser avec le regard d'expérience, le regard vécu des habitants sur leur situation. On ne peut pas comprendre, selon notre démarche, on ne peut pas comprendre un phénomène sans ceux qui le vivent. L'autre enjeu, c'est que on observe en fait un désengagement et une désappropriation des questions de santé par les citoyens qui confient véritablement cette responsabilité au secteur médical et en particulier au médecin généraliste qui est le prescripteur, l'expert et le seul en capacité de répondre aux questions de santé. Quand on va à la rencontre de la population pour dire mais qu'est-ce qu'on pourrait faire pour agir ensemble, enfin ça c'est en caricatural, hein. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble pour agir sur la santé? Ah non, moi je suis pas médecin, ah non, moi je... Voilà, l'expertise médicale qui est tellement pointée comme étant la référence immuable pour améliorer les problèmes de santé fait que progressivement les habitants, les citoyens, on se sent pas à même d'aborder et de traiter ces questions, ce qui peut nuire justement à la responsabilité. On parlait de la responsabilité aussi des patients dans le parcours de soins. Ben, ça, c'est un petit peu problématique pour que chacun prenne en main sa santé en tant qu'acteur. Et en même temps, on observe quand même, je trouve particulièrement ces derniers temps, on entend beaucoup parler avec le développement des gadgets et de la communication des nouvelles technologies, d'une appétence pour les questions de santé. Alors avec tous ces forums internet où on discute des questions de santé, où on essaye de refaire le diagnostic, les montres qui vous donnent des décharges si vous faites pas assez de marche, enfin tous ces trucs-là, il y a quand même de plus en plus une appétence profane pour ces questions de santé, mais c'est une appétence qui se caractérise plutôt dans les milieux sociaux, les classes dites supérieures ou moyennes, et moins dans les milieux les moins favorisés. Et par exemple, l'évaluation du programme national nutrition santé avait montré que les messages du programme avaient été très bien intégrés par les catégories sociales dites supérieures, par contre beaucoup moins dans les milieux les plus fragiles, ce qui ne fait au final que renforcer en fait les inégalités de santé. Donc pourquoi, en résumé, pourquoi associer la population à la gouvernance est pour nous essentiel? Bah parce que la santé, c'est l'affaire de tous et de tout à chacun. Il n'y a pas de normes, ça relève de vraiment une dimension qu'on doit pouvoir saisir collectivement et qu'on doit pouvoir définir ensemble. Parce que les facteurs qui l'influencent sont multiples, relèvent des dimensions politiques, sociétales et nécessitent vraiment l'expertise vécue des habitants. Parce que les politiques conduites jusqu'ici, si elles ont permis d'augmenter l'espérance de vie, elles n'ont pas à ce jour montré leur efficacité pour réduire les inégalités sociales de santé, d'où la nécessité de revoir le modèle. Voilà. Alors à Mulhouse, comment ça se traduit? Je vais essayer d'accélérer, voilà, en termes de gouvernance. Alors au niveau, évidemment, une réflexion au niveau de l'action, au niveau micro-local, avec la création de 7 réseaux santé dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, qui sont composés d'habitants, de professionnels, des professionnels du secteur social, mais aussi des professionnels du secteur médical. Et puis, à ce titre, par exemple, les centres hospitaliers, je ne dis pas ça parce que vous êtes là, mais je vous avais noté, on a la chance d'avoir 2 centres hospitaliers à Mulhouse qui couvrent le territoire, qui sont tout particulièrement dynamiques et ouverts sur cette approche territoriale, et donc la chance d'avoir des représentants du secteur hospitalier qui travaillent avec des habitants au sein des réseaux santé de quartier, ce qui est quand même à souligner. Et puis au niveau plus de la gouvernance locale, donc c'est-à-dire contrat local de santé et contrat unique, on a expérimenté cette année l'implication des habitants dans l'instance de gouvernance du contrat unique. Et ça nous a permis, en matière de santé, de véritablement entrer dans une approche, une vraie approche de promotion de la santé décloisonnée. Parce que les habitants, avec les acteurs aussi de terrain qu'on avait souhaité associer à cette démarche, nous ont vraiment amené à réfléchir la santé, non pas sur l'approche maladie, mais sur l'approche bien-être, avec du coup un programme d'action pour les 5 prochaines années qui est un petit peu... Qui balaye tous les champs et qui donc sera très compliqué à mettre en œuvre vu les cloisonnements institutionnels, mais qui est en même temps passionnant. Alors, quel défi de cette implication de la participation? Bah déjà, pour nous, professionnels, de reconnaître l'équivalence et la réciprocité des savoirs entre les savoirs professionnels, les savoirs issus de la théorie et ceux de l'expérience des habitants. La nécessité pour nous, professionnels, de se former en termes de posture à accueillir justement cette parole des habitants, sans pour autant, et ça je trouve que c'est important parce qu'on a parfois ce travers-là, sans pour autant se mettre en retrait. L'équivalence des savoirs, ça veut dire que le savoir professionnel a la même valeur que celui de l'habitant, et c'est pas parce que un habitant a telle ou telle option qu'il faut non plus se mettre en retrait et lui donner une parole d'or, parce qu'on a parfois aussi un peu ce déséquilibre-là qui n'est pas favorable à nos programmes ensemble. Ensuite, la question, c'est de la formation et de l'accompagnement des habitants pour participer dans les instances, parce que de plus en plus, la loi ouvre les instances aux habitants, aux représentants des usagers, enfin, comme on veut, mais il n'y a pas d'accompagnement, il n'y a pas de temps et de moyens dédiés à renforcer, en fait, les compétences en fait des habitants qui vont participer à ces instances et qui donc vont pouvoir contribuer au débat en étant aussi outillés que nous professionnels, ne serait-ce que comprendre et appréhender le champ lexical qu'on utilise pendant nos réunions. C'est parfois tout un problème, et je crois que c'est un enjeu majeur qui relève un peu du champ de l'éducation populaire mais qui doit vraiment pas être oublié, et donc ça pose aussi la question des moyens. Je vais donc tenter de conclure en disant peut-être que dans le champ de la santé mentale, j'ai l'impression, et c'est peut-être en fait lié à mon expérience à Mulhouse et peut-être pas du tout représentatif, mais moi j'ai le sentiment que dans le champ de la santé mentale, c'est quand même un champ qui est très investi de cette question de la place de l'usager, de la place du citoyen. Ne serait-ce qu'à travers les groupes d'entraide mutuelle qui sont très intéressants du point de vue de la participation des personnes aux instances de gouvernance. On a eu des expérimentations comme le contrat social multipartite du centre hospitalier de Roufac qui sont très très intéressantes de ce point de vue-là. Et puis, comme je le disais, des centres hospitaliers qui s'ouvrent sur le milieu et notamment dans les quartiers prioritaires. Et ça, c'est un enjeu essentiel parce que avant de vouloir faire rentrer des habitants dans les instances de gouvernance de nos institutions, il faut que nos institutions s'ouvrent au territoire de vie. Voilà.
Je suis désolé d'être dans ce... ce rôle frustrant du gardien du temps. Mais bon, vous l'avez compris, je pense qu'on va sacrifier la pause. Avant de donner la parole à la salle, bon, on voit bien qu'on est dans au cœur de la question de la démocratie en santé, donc peut-être que ça inspire un commentaire de Madame De Victor.
C'est-à-dire, on a vu au cours des interventions de ce matin que le service territorial de santé au public, il doit permettre de fixer le cadre des coopérations qui rendront possibles les coordinations autour de chacun, de chaque personne. Mais la question qui était sous-jacente et même très présente, c'est qu'est-ce qui va conduire les acteurs à passer d'une posture de concurrence à une posture de coopération, alors qu'ils ont été jusqu'à présent plutôt situés en position de concurrence. Et jusqu'où, comment on va se faire cette entrée des acteurs dans les contrats collectifs? Parce que Christine Brunac, vous évoquiez tout à l'heure PAERPA, on a un projet collectif, mais des contrats individuels. Là, l'idée du STS, c'est le contrat collectif. Comment ça marche, le contrat collectif, avec des acteurs qui sont justement dans des postures bien, bien différentes? Après, comment on revendique la marge de manœuvre laissée aux acteurs? Et en même temps, on s'interroge sur les modalités de gouvernance. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a deux niveaux. Il y a un niveau de gouvernance stratégique et un niveau de gouvernance opérationnelle. Le niveau de gouvernance stratégique est évoqué dans la loi, mais la gouvernance opérationnelle ne l'est pas. D'où question. Et est-ce que là, c'est pas le champ d'intervention des acteurs pour qu'ils définissent le mode de gouvernance dont ils veulent? Je crois que ça ne contredirait pas ce que vous disiez tout à l'heure. Ça ne contredirait pas non plus ce que vous disiez, madame, sur les usagers, parce que le rôle du Conseil territorial de santé pourrait aussi à prévoir les modalités d'expression des usagers et tout ce qui pourrait être aussi, ce qui n'est qu'un des aspects, mais qui est comme un aspect utile, c'est la prise en charge des plaintes et réclamations des usagers relatives à leur parcours, qui jusqu'à présent ne trouve pas de lieu d'expression, puisque les parcours sont segmentés, et que cette parole de l'usager, elle est de fait segmentée. Donc voilà, il me semble qu'il y a beaucoup de marge d'appropriation par les acteurs et donc aussi beaucoup de questions, me semble-t-il, au regard des différentes interventions.
Merci. Donc il y a la place pour une question, deux maximum, avant qu'on passe à la table ronde.
Je voudrais juste, donc Dominique Lachat, directrice par intérim du centre hospitalier de Roufac, je voudrais juste compléter par quelque chose qui est une expérimentation en matière de conseil territorial en santé mentale. Ce sont les conseils locaux de santé mentale. Et dans le Haut-Rhin, depuis 2 ans, nous faisons l'expérimentation d'un déploiement sur l'ensemble du territoire du Haut-Rhin, par petites zones, donc qui correspondent aux arrondissements. Et je pense que c'est un facteur favorisant pour habituer les différents partenaires dans une structure qui est volontaire, pour ceux qui connaissent quand même déjà les conseils locaux de santé mentale, qui est une structure volontaire où il y a un dialogue entre les partenaires. Et je pense que ce que retraçait Alistro de Buchoni, donc le conseil local de santé mentale de Mulhouse fonctionne très très bien et à mon sens vient compléter le contrat local de santé et les différents autres dispositifs qui existent dans le domaine.
Merci. Est-ce qu'il y a une autre question ? Bien, bah, si vous le voulez bien, on peut passer à la table ronde. Donc, merci beaucoup, mesdames, et bien entendu, vous restez associés au débat.
D'ailleurs, si vous... On a un problème de place, comme vous le savez, chaque année dans cette salle, d'autant qu'après, on n'a pas forcément le droit de s'installer à la D'accord. tribune. C'est un peu compliqué. Je vous propose, mesdames, peut-être de rester sur ces sièges un peu précaires. Alors, on a besoin, pour passer à la table ronde, donc de Denis Robillard, qui nous a rejoint, de Christine Brenec, de René Caillé, de Jacques Maresco et de M. Biche, que je ne connaissais pas jusque-là, autrement que par téléphone. Le temps que tout le monde s'installe, il est de nouveau parmi nous cette année, il était intervenant l'année dernière, remercier donc Rémi Mas de l'adresse, parce que c'est lui qui m'a mis sur la piste de la Santé en Action, le numéro de juillet 2014, le lien, puisqu'il faut y aller par Internet, on vous le donnera. Et c'est là qu'on a donc trouvé les deux précédentes interventions et d'autres articles qui sont tout à fait intéressants. Avec un simple commentaire, c'est qu'en majorité, on est des urbains. Les hospitaliers, beaucoup d'entre eux, comme les chercheurs. Les établissements, notamment le bureau de l'ADES, sont beaucoup d'établissements d'agglomération et de zones urbaines. Or, certes, on voit bien que c'est le phénomène urbain d'agglomération qui tire les choses et qui est premier par rapport à d'autres phénomènes périurbains, ruraux, désertification, que sais-je encore. Je pense qu'il ne faut pas se tromper de focale. Mais c'est vrai que la majorité de ce qu'on cherche, de ce qu'on étudie, reste quand même en zone urbaine, et notamment le périurbain ou le rural est assez peu documenté, notamment quand on regarde ces numéros spéciaux. Et c'est aussi le cas pour nous, finalement. On manque de données sur certains territoires.
Très bien. Donc, nous accueillons donc à la table ronde M. Robillard, député, M. Caillé, Fédération hospitalière de France, M. Maresco, directeur d'un établissement privé à but non lucratif à Lyon, et M. Biche, directeur de l'association Fil Rouge à Rennes et administration de la Fédération Croix-Marine. Donc, ce que je vous propose, donc, c'est peut-être de commencer par une question pour M. Robillard en tant que parlementaire, hein, pour un petit propos liminaire. M. Robillard, vous avez été l'auteur de travaux sur un sujet particulier qui sont les soins sans consentement et aussi plus largement sur le thème de la psychiatrie et de la santé mentale. Donc vous avez rédigé 30 propositions. Bon, beaucoup étaient sanitaires, mais un certain nombre aussi s'orientaient sur une approche plus large, médico-sociale, voire sociale. Comment est-ce que vous pourriez resituer vos propositions à la lumière du projet de loi de santé tel qu'il est en préparation? Est-ce que vous sentez en phase par rapport à cette orientation? Comment voyez-vous la mise en place du conseil local du service territorial de santé au public? Enfin, est-ce que vous pouvez nous donner une approche pour ouvrir la discussion?
Bien, bonjour à chacun. C'est jamais rassurant de prendre la place de la pause. Moi, d'abord, je suis député, mais comme formation, je suis juriste, ce qui me conduit à vous dire que je me méfie toujours de la loi et de ce qu'on attend d'elle. C'est-à-dire que c'est un outil, elle est là effectivement pour poser des principes, pour permettre, pour interdire un certain nombre de choses aussi, mais elle n'épuise pas la politique. Et de façon très claire, une politique en matière de santé ne se résume pas à une loi. Moi, ça me paraît important de le dire, parce que en matière de santé mentale, il y avait une forte attente de la loi, et je crois que, y compris dans mes auditions, les auditions, j'écoutais les autres. Après, je ne savais pas que je serais condamné à parler devant les autres, mais j'ai toujours dit attention. Même pour les psychiatres, où la loi a un sens qui n'est pas purement juridique, toute la solution et toute la politique ne peut pas être, ne peut pas se trouver dans la loi. Enfin, ça, c'est la première chose que je souhaitais dire. Et donc, évidemment, je ne me suis pas affolé de ne pas retrouver l'intégralité de mes 30 propositions dans la loi, puisque je cherchais pas ces propositions dans la loi. La deuxième chose, c'est qu'il y a très clairement, on a discuté avec le ministère de la Santé au stade de la préparation du projet de loi. Je crois que le cabinet de Marisol Touraine a été très actif dans les consultations avec les professionnels, mais aussi avec les parlementaires. Bon, il y avait la question du secteur en matière psychiatrique. Vous savez comment c'est résolu en l'état par le projet de loi, et puis encore une fois, la loi ne sera achevée qu'une fois qu'elle sera adoptée. C'est-à-dire qu'il y a un travail parlementaire, il y a un travail d'amendement, il y a un travail d'explication de ce qu'il y a dans les articles 12 et 13 du projet de loi, et il y aura éventuellement un travail d'amendement. Et pour que les choses soient très claires, moi j'appartiens à la majorité, l'amendement se mène en bonne intelligence, en tout cas en général, avec le gouvernement. C'est-à-dire que ce n'est pas les parlementaires contre le gouvernement. C'est une discussion commune qui vise à aboutir. Moi, j'avais défendu dans mes propositions la nécessité d'un secteur rénové, c'est-à-dire de réaffirmer le secteur qui me paraissait avoir souffert dans les années précédentes. Je crois qu'il y avait une orientation de la politique qui était consistait à le faire disparaître progressivement. Je peux me tromper, hein, mais c'était l'interprétation que j'en donnais. Et ça me semblait nécessaire de le réaffirmer. Pourquoi ? Mais parce que la chronicité de la maladie n'est pas à démontrer, parce que la nécessité d'une offre plurielle, à la fois hospitalière et ambulatoire, à la fois médicale et médico-sociale, était nécessaire. Donc il y avait la notion de parcours de soins, et il y avait nécessairement une territorialisation de la santé. Bon. En matière psychiatrique, historiquement, ça s'appelle le secteur, cette politique-là. Pourquoi faire disparaître le nom, d'autant qu'il y a un attachement à cette institution, qu'il y a des racines dans la théorie. Il n'y a pas simplement la circulaire de 1960. Hein. Il y a Toscaïev, mais il y a des très grands noms, bon à fait, qu'on peut évoquer à propos de la politique de secteur. Donc je ne souhaitais pas qu'elle soit abandonnée, je souhaitais qu'elle soit rénovée. Pourquoi ? Parce que ce qu'on constate, c'est que sous la même étiquette secteur, il y a des pratiques complètement différentes. Il y a des moyens qui vont de 1 à 8 en termes financiers. Il y a des secteurs qui sont complètement hospitalo-centrés. Et je me dis qu'ils étaient chefs de service centrés, chefs de pôle, on dit aujourd'hui, mais enfin, c'est vrai. Et il y a des secteurs qui, eux, ont des pratiques complètement différentes. Donc, sous le même nom et derrière la même institution, se cachent des pratiques qui ont des fois très peu à voir les unes avec les autres. D'où la nécessité de ce que j'avais appelé une sorte de SMIC sectoriel, c'est-à-dire qu'on ait des fonctions minimales affectées à un secteur. Bon. Ce n'est pas exactement ce que fait le projet de loi. Le projet de loi, il dit que la santé mentale, maintenant, se développera sur deux échelles. L'échelle du secteur, qui est celle des soins psychiatriques, de proximité, avec les nécessités d'une offre, avec une possibilité d'articulation avec ce qui se passe dans d'autres secteurs. Et puis, l'échelle dite de la santé mentale, où il y a toute une politique en termes de prévention, notamment, et dans le même article 13, vous avez les deux échelles qui sont articulées. Bon. Et après, sur les deux, si j'ai bien compris le projet de loi, mais je parle devant des personnes qui ont participé à sa rédaction, donc ils me démentiront si je m'étais trompé. Bon, moi, je trouve ça intéressant. Ce qui me paraît intéressant, c'est d'abord que l'échelle sectorielle, elle est réaffirmée. L'échelle sectorielle, ce n'est pas l'échelle du territoire de santé de base. Ce n'est pas la brique initiale. C'est une échelle qui est assez proche, me semble-t-il, même si c'est le directeur général de l'ARS qui le définit. Mais enfin, bon, on ne va quand même pas prôner l'auto-institution des secteurs. J'entends que ce serait scandaleux que le DG de l'ARS puisse participer à la définition d'un périmètre, mais enfin, je veux dire, à quoi il sert, sinon il ne sert pas qu'à ça. Mais enfin, bon, c'est quand même bien une politique d'État, des moyens d'État. Bon, il y a un moment où il faut aussi admettre que l'État puisse dire son mot, enfin, il me semble. Mais le périmètre, c'est celui qu'on connaît aujourd'hui. Simplement, il s'articule avec la politique générale de la santé qui, elle, se développe dans le cadre des territoires de santé. Le territoire de santé, c'est quoi ? C'est un grand secteur, hein, ou c'est un secteur qui ne s'arrête pas à la santé, qui ne s'arrête pas à la psychiatrie. Et d'une certaine façon, on peut dire que les psychiatres font école, puisque la territorialisation qui était la marque du secteur, aujourd'hui, elle s'étend au domaine du MCO, ce qui me paraît intéressant. Bon, j'arrête là parce que j'ai promis de rester dans les 5 minutes et que même pour un parlementaire, il arrive de respecter une promesse.
Alors, je pense que la thématique du secteur de rénové est un sujet qui fait couler beaucoup d'encre. Donc, effectivement, vous nous avez donné des éclairages sur ce que vous voyez dans ce terme. Mais peut-être, il y a d'autres personnes qui souhaiteraient intervenir sur le sujet du secteur rénové, que ce soit à la table ronde ou que ce soit parmi les intervenants de ce matin ou dans la salle. Qu'est-ce que ce terme de secteur rénové évoque? Dans la mesure où le secteur reste quand même comme je disais tout à l'heure, un modèle médical. Quand on lit la circulaire de 1960, il y a en fait peu de place pour des intervenants extérieurs, donc le contexte a changé. Donc comment est-ce qu'on peut recréer cette dynamique? Peut-être Jacques Maresco.
C'est bon comme ça? Là c'est bon? Oui. Alors, je pense que d'abord, dans la circulaire 60, même dans les paragraphes terminaux, autant que je m'en souvienne, on évoquait le lien avec les élus locaux, on évoquait le lien avec les entreprises, pour trouver du travail aux patients en capacité d'en avoir. Donc, ça va au-delà, me semble-t-il, de la simple conception qu'on peut avoir eue, peut-être après, un peu étriquée, du fonctionnement du secteur. Je voudrais dire à M. Robillard, mon voisin, qu'en 2009, quand nous avons envisagé dans mon établissement de réorganiser les territoires de nos secteurs, nous avons saisi, bien entendu, l'administration qui nous a dit « ça n'est pas notre affaire, vous faites comme vous voulez ». J'ai eu un refus, j'ai eu un courrier de mai 2009 du DAS intervenant au nom de l'ARS, nous disant « faites comme vous voulez ». Voilà. Donc tout de même, pour rappeler que l'État, dans ce domaine, avait bien, en tout cas ses représentants locaux, avait bien, j'allais dire, renoncé à définir la territorialisation des secteurs, à l'intérieur, en tout cas, d'un territoire couvert par mon établissement. Moi, je pense que le service territorial, enfin le territoire de santé, je regrette d'ailleurs qu'on ait abandonné la notion de service public territorial, mais enfin, je comprends aussi que pour des raisons de diplomatie, il était nécessaire de le faire. Mais que le service territorial de santé au public va certainement avoir une articulation. Qui n'est pas défini par le texte aujourd'hui, au secteur, qui devra sans doute aussi être revu au cas par cas, pas seulement région par région, mais établissement par établissement, puisque si je regarde autour de moi, on a des secteurs, on a encore des établissements qui ont des secteurs de 50 000 habitants. Nous, comme les médecins ne voulaient pas qu'on parle de pôle, puisque nous ne sommes pas tenus en tant qu'établissement associatif d'avoir des pôles, qu'on a réservé le terme de pôle à ce qui était intersectoriel, ils ont voulu avoir des grands secteurs. Donc on a des secteurs de 180 000 habitants. Donc je ne sais pas comment tout ça va s'articuler avec le territoire, d'autant que dans la région, on a des territoires qui font... il y a au moins deux territoires qui font environ 2 millions d'habitants. Je parle sous contrôle de Mme de Victor, qui les connaît mieux que moi. Mais enfin, le territoire centre et le territoire est sont environ des territoires de 2 millions d'habitants. Je ne vois pas quelle va être l'animation et quelle va être l'articulation. Alors, il faudra les bouger, certainement. Je n'ai pas vu dans la loi d'indication précise là-dessus. Bon. Donc, je ne sais pas aujourd'hui comment, nous, on va pouvoir travailler là-dessus. Par contre, ce que je vois d'intéressant dans la loi, c'est qu'il peut y avoir des pouvoirs de contrainte concernant un des partenaires essentiels qui est le secteur médico-social sur les autorisations pour que ce secteur participe au service territorial de santé et à des actions du contrat du projet territorial de santé. Or, je pense que c'est une des grandes problématiques tout de même de nos établissements que de n'avoir pas sur les territoires qu'ils couvrent, enfin qu'ils desservent, sur la population des territoires qu'ils desservent, une offre assez bien répartie, on va dire, de structures d'accompagnement ou d'hébergement ou d'insertion médico-sociale qui acceptent de jouer le jeu territorial. Aujourd'hui, enfin, si je prends un exemple pour ce qui nous concerne, eh bien, nous déportons des malades dans l'Ain, en Saône-et-Loire, dans des départements éloignés, loin de leur famille, loin de leur environnement, loin du lieu où ils ont vécu. Et ça, j'espère que ce modèle-là aura une gouvernance suffisamment adaptée pour faire en sorte que cette proximité, qui est un des arguments de rétablissement du secteur, puisse aussi s'exercer pour permettre des parcours qui soient plus harmonieux. Voilà, je m'arrête là, mais...
Merci. Est-ce que dans la salle, il y a des expériences intéressantes de redécoupage des secteurs, de regroupement, de lien avec le médico-social? Enfin, si, est-ce que quelqu'un souhaite intervenir, souhaitait en l'évoquer?
D'abord, peut-être un petit mot d'introduction pour expliquer d'où je parle. Je suis en Ille-et-Vilaine responsable d'une structure sociale médico-sociale qui pilote notamment un SAVS et un dispositif lié à l'insertion professionnelle qui s'appelle Fil Rouge. Et par ailleurs, effectivement, je suis engagé au niveau de la Fédération des aides à la santé mentale Croix-Marine, qui devient Santé Mentale France actuellement, puisqu'il y a un regroupement des fédérations qui est en train de se mettre à l'œuvre. Il y a des autorisations ministérielles qui nous manquent simplement pour que ça soit totalement effectif. Ce regroupement est significatif d'ailleurs, puisque c'est bien la volonté de regrouper des structures et de décloisonner des pratiques entre une fédération, la GAPSI, qui avait peut-être une connotation plus médico-sociale, et Santé Mentale France, Croix-Marine, qui historiquement déjà croisait le social et la psychiatrie, mais quand même avec une teinte psychiatrique un petit peu plus marquée. Donc, et moi je viens de ce secteur social. Et je crois que c'est important c'est pour ça que je parlais du secteur d'ailleurs. Ce qui s'est procédé il y a quelques années en Ille-et-Vilaine a été important sur le découpage des secteurs. Ça a été de vouloir faire coïncider les secteurs de psychiatrie avec les territoires d'action sociale et de faire en sorte que ça soit les mêmes cartographies, pour reprendre l'expression qui a été nommée tout à l'heure. Et je crois que là il y a un vrai enjeu, et c'est de ce point de vue, à mon avis, que l'action sociale et médico-sociale sont particulièrement concernées, c'est qu'on a aussi un cloisonnement des politiques. Et parler de l'organisation de la politique de santé sans penser à la nécessité de la décloisonner, de la croiser avec les politiques d'action sociale, avec les politiques du logement, avec les politiques de l'emploi, avec l'ensemble des acteurs et qui sont eux-mêmes découpés, hein, entre les conseils généraux, la direction de la cohésion sociale, etc. On retrouve des interlocuteurs qui ont tous quelque chose à en dire. Et je crois qu'aujourd'hui, on a conduit une action en Bretagne qui était sur la coordination des acteurs en santé mentale. Et notre première conclusion était de dire, déjà, au niveau des grandes administrations, des grands organisateurs, si vous mettez d'accord sur la coordination des politiques entre vous, sur le terrain, ça sera plus facile pour nous. Et je crois qu'effectivement, là, il y a un premier enjeu que je voulais poser. Et donc, cette question secteur rénové, comment effectivement on fait que la psychiatrie soit présente dans les territoires et en proximité des acteurs de l'action sociale, des acteurs de l'éducation, des acteurs. C'est bien là qu'est l'enjeu de cette question de la sectorisation rénovée de notre point de vue. C'est pas effectivement une histoire d'organisation en tant que telle, mais c'est comment la porosité des actions entre les uns et les autres se construit sur chacun des territoires de vie. Et c'est pour ça qu'effectivement, moi, quand on parle de la notion parcours de vie ou parcours de soins, en utilisant le terme parcours de vie, on voit bien qu'on est obligé de penser les choses autour de la globalité de la problématique des personnes et de ne pas la centrer sur le soin et inviter effectivement que le soin soit un invité un peu extérieur à cette question-là.
Merci. Docteur Micheletti, vous souhaitiez intervenir? Il y a un micro dans la salle. Sur l'estrade.
Oui, juste par expérience et par rapport à l'intervention de Monsieur Biche, je pense qu'il faut faire attention de ne pas rajouter de la complexité à la complexité. C'est-à-dire que certes, il y aurait une cohérence intellectuelle et politique à essayer de résoudre la question du secteur psychiatrique en même temps qu'on mettrait de la cohérence dans les acteurs territoriaux ou politiques. Mais je crois que déjà, si on était capable de fournir une grille de travail propre à la psychiatrie, c'est-à-dire sommes-nous capables, dans la communauté hospitalière, de définir un set d'indicateurs qui croiserait des éléments quantitatifs, populationnels, avec des éléments plus qualitatifs, comme les réalités socio-économiques des territoires, les us que j'évoquais tout à l'heure. Soyons déjà capables de faire le ménage dans la communauté psychiatrique, et après on ira se confronter à une autre prise de tête qui est de se corréler aux acteurs politiques, des conseils généraux, etc. Mais il ne faudrait pas qu'en rajoutant de la complexité à la complexité, on se prive de balayer déjà devant sa porte.
Donc effectivement, il faut être pragmatique. En même temps, au niveau de la lutte contre le cloisonnement et de la gouvernance, il y avait une question que j'avais envie de poser à Madame Bronek. C'est en écho aussi avec quelque chose qui ressort de l'avis de la Conférence nationale de santé. Bon, on a pu remarquer que, à l'occasion de la constitution de l'ARS, il y a un nouveau cloisonnement qui s'est opéré avec les directions de la cohésion sociale. En fait, bon, les anciennes DAS avaient la double casquette, mais bon, ça a recréé donc un clivage. Et on s'aperçoit que sur le terrain, effectivement, il y a parfois une dichotomie. Et quand on a envie de faire revenir des acteurs du social dans les problématiques sanitaires et médico-sociales, c'est un peu compliqué. Donc, il avait été évoqué la question de repositionner les directions de la cohésion sociale par rapport aux ARS. Donc, est-ce que c'est une question qui se pose au niveau du ministère? Est-ce que c'est une approche pertinente? Ou quelle réponse on pourrait donner à cela? Pardon? D'accord. Donc, je vais peut-être donner la parole maintenant à René Caillet, parce que sur la question du secteur rénové et de la territorialité, bon, la FHF a sorti récemment un communiqué faisant remarquer à juste titre le défaut de lien entre la loi de santé et la réforme territoriale, dont les contours sont encore un petit peu flous. Donc je pense que la FHF a un certain nombre de choses à dire sur ces sujets.
Oui, sûrement trop en 5 minutes. Merci Gilles. D'abord, je tiens à remercier l'ADES de convier, comme chaque année, hein, et son président. La FHF a participé à vos journées qui sont extrêmement riches. Ce mot tant à votre écoute qu'à proposer. Hein. Que ce soit très clair, même si quelquefois nous pouvons encore progresser, j'en suis bien conscient. Sur le propos liminaire, je voudrais dire 5 choses. La première, c'est que nous nous réjouissons en tant que fédération hospitalière publique, les deux mots étant chacune pour leur, très importante pour leur part, chacun pour leur part, pardon, nous réjouissons que la psychiatrie et la santé mentale soient dans la loi de santé. C'est une évidence, mais il faut se rappeler qu'au mois de février 2014, pour avoir participé personnellement avec des responsables de notre fédération, dont Gérard Vincent, à la concertation avec la ministre et le cabinet, cette question n'apparaissait pas, en tout cas, comme un sujet. Nous avons insisté un petit peu, et finalement, il y a eu une mission qui a été donnée, qui a donné ce que nous connaissons, c'est-à-dire les articles 12 et 13. Donc nous nous réjouissons, quels que soient les débats qui peuvent y avoir lieu et qui sont d'actualité sur telle ou telle modification à apporter à ces contenus, que ces articles soient présents. Premier élément. Et donc nous remercions la DGOS d'y travailler activement. Deuxième sujet, c'est la question de la territorialisation. Gilles m'invite à en parler, je vais le faire très brièvement. Il y a une réforme de la territorialisation en cours, totalement en parallèle, et nous avons attiré l'attention du gouvernement sur cet aspect, avec la réforme des territoires de santé. Évidemment, il n'y a pas que la santé, c'est beaucoup plus compliqué, nous en sommes parfaitement conscients. Mais il est difficile d'imaginer que la fusion des futures régions conduisant nécessairement ipso facto à la fusion d'ARS dans de grandes ARS reste sans impact et sans conséquence sur l'organisation de notre système. Mais il est également difficile de concevoir que le trou béant ouvert par la loi HPST dans l'indéfinition du rattachement des établissements publics de santé par rapport à une collectivité que nous souhaitons évidemment territoriale ne doivent pas être revus et refermé. C'est pour ça que nous demandons, avec insistance, depuis déjà 2 ans, et nous le refaisons donc dans le cadre de cette loi, à travers des amendements, si c'est souhaité, que les établissements publics de santé soient rattachés à une collectivité territoriale. De facto, la question est, quelle est cette collectivité territoriale ? Dans le domaine du MCO, je dirais que c'est relativement simple, encore que, mais enfin, c'est le plus simple. Ce sont les niveaux régionaux et intercommunaux, pour aller rapidement, qui semblent devoir s'imposer. Je n'ai pas dit que c'est nécessairement ce qui doit être écrit, mais en tout cas, ce sont des niveaux légitimes de rattachement. Ceci pose par antiphrase la question du rôle du département. Je ne vais pas ouvrir un débat, mais très clairement, il a été annoncé au plus haut niveau de l'État, dans un premier temps, une révision en profondeur de ces institutions qui sont déjà très anciennes, et légitime. Et puis, depuis quelque temps, il semble que ça sera revu en 2020, on ne sait plus trop bien. Bon. Évidemment, dans le domaine de la psychiatrie santé mentale, c'est essentiel, puisque, c'est pour vous que je vais le dire, le département est un interlocuteur majeur pour tous les acteurs. Cette question reste posée. Je ne vais pas faire la... Bon, donc c'est un point de réflexion globale sur lequel nous persistons, et nous avons rencontré M. Valigny, sur ce point, qui s'est déclaré extrêmement intéressé à la réflexion proposée dans le domaine de la santé. Et nous avons écrit à la ministre, Mme Touraine, pour lui faire une série de propositions portées par Yves Bure et le conseil d'administration de la FHF. Ça, c'était le deuxième point. Troisième point, c'est le sujet de ce matin, de ces deux journées, service public territorial de santé devenu service territorial de santé au public. Nous l'avons regretté. Mais nous sommes constructifs, nous avons compris et nous comprenons bien les contraintes de certaines concertations, de certains niveaux de discussion politique. Il n'en demeure pas moins, et je maintiens, que la FHF considère qu'il y a là un facteur de confusion qui devra être précisé, levé rapidement. Il y a le service public hospitalier, dont nous sommes des parties prenantes et des composantes, et donc c'est le « et » qui va nous intéresser, ce service territorial que Mme Bronek a décrit très très précisément, je l'en remercie. Cette question pose des problèmes juridiques, et en présence d'un juriste éminent, je ne vais pas m'amuser à faire du droit, mais cette question reposera la question du service public, car le service territorial de santé au public est un service public, qu'on le veuille ou pas, une récente délibération du Conseil d'État le confirme. Donc cette question reste entièrement posée. Ce n'est pas pour faire de la doctrine que j'en parle, c'est pour dire qu'à un moment donné, et je remercie Denis Robillard, puisque je m'inscris totalement dans les propos qu'il a eus sur le secteur et la sectorisation et le secteur, depuis 1960 et depuis toute la construction doctrinale qui a eu lieu jusqu'à HPST, est une composante du service public, est un axe de construction du service public, et nous devons nous appuyer dessus. N'inventons pas, ne réinventons pas. Ça a été dit par M. Kelletti, pardon, ne réinventons pas un nouveau dispositif. Ce n'est probablement pas le cas, mais c'est un sujet que nous souhaitons ne pas avoir à aborder à travers la construction d'une nouvelle entité territoriale, de nouveaux dispositifs de lecture qui seraient parallèles et éventuellement concurrents. Bon, je referme cette incise, mais je crois que c'est un vrai débat. Et c'est la raison pour laquelle, avec certainement des éléments à discuter, nous avons souhaité communiquer sur cette question du secteur dans l'article 13, avec un certain nombre de fédérations. J'ai bien compris, je suis bien conscient que la question de la gouvernance, dans laquelle la FHF ne souhaite pas trop entrer, pour avoir été durement chapitré dans l'épisode précédent de la loi HPST, nous ne souhaitons donc pas, mais ça sera forcément le cas, être réinterrogé sur ces questions de gouvernance et de jeux d'acteurs. Les jeux d'acteurs ne nous intéressent pas. La question, c'est le pilotage des missions. Voilà. Donc, un certain nombre de sujets, d'interrogations, de critiques. Elles sont parfaitement légitimes. Je les entends et même, à la limite, je les partage. Il y a des éléments qui devront être retravaillés. Nous tendons durement le sujet pour dire qu'il faut que la question du secteur soit une bonne fois pour toutes réinscrite dans la loi et qu'elle soit traitée au bon niveau, qui est celui qu'elle doit occuper. Et je crois que c'est en train de se faire, donc nous sommes assez confortés dans ce domaine-là. Cinquième point, et j'arrêterai là-dessus, des sujets qui vont forcément nous interpeller. À plusieurs reprises dans les présentations, on parle de santé mentale sans parler de psychiatrie. Évidemment, c'est les deux. Ce n'est pas à vous que je vais l'infliger. Nous y sommes extrêmement attentifs. Le débat sur la simplification qui a été abordé par M. Debeaupuis nous a interpellés, notamment à partir de la question de la simplification du décret sur les autorisations pour les établissements de santé psychiatrie privée. Hein. Donc, il y a des voies de simplification qui nous paraissent être excessives et qui s'apparentent à de la dérégulation, nous l'avons dit en CNOS. Et c'est ce qui nous a conduit à mettre les pouces et à demander, en tout cas à suspendre, ce qui est maintenant terminé, je le confirme, notre participation aux travaux sur la simplification. Je pense que ceci ne demande pas plus d'explications, c'est relativement clair. Il ne faut pas utiliser, transformer, déplacer sans arrêt, à travers la sémantique, les sujets. Et je crois que le sujet d'aujourd'hui fait évidemment référence à cette question fondamentale du jeu sémantique. Je ne ferai pas de réponse sur le secteur rénové, mais tout est dans l'adjectif. Maudits adjectifs. Hein. Donc, à un moment donné, c'est à vous de dire, vous êtes les experts, jusqu'où va-t-on dans la rénovation? Nous sommes évidemment preneurs, comme Denis Robillard le soulignait tout à l'heure, d'un vrai secteur rénové, mais faisons-le ensemble, avec les médecins, avec les responsables d'établissement, les directeurs, et en appui de la FHF. Voilà. C'était un peu...
Merci. En ce qui concerne la réforme territoriale, bon, il semble quand même que les annonces disent que le département subsisterait au moins pour les zones rurales et que bon dans les autres zones, notamment très urbanisées, on serait dans le dispositif métropole. Donc, on peut penser qu'en ce qui concerne la santé mentale, ben la collectivité de référence ne sera pas forcément la même selon le type de territoire auquel on s'attache, sachant qu'il y a des territoires ruraux dans lesquels le secteur coïncide avec le département. La problématique de la métropole paraît quand même être un enjeu tout à fait important. Et je crois qu'il y a une réflexion à avoir sur la façon dont on décline nos organisations. Moi, je travaille dans une métropole qui devrait normalement voir le jour, quoi qu'en disent un certain nombre d'élus locaux. Et donc, pour nous, on a déjà un travail qui a été commencé au niveau d'un conseil d'orientation en santé mentale sur la ville de Marseille. Donc, qui est pour nous le lieu d'organisation des prises en charge transversale, sanitaire, médico-social et social autour de la santé mentale. Bon, la venue de la métropole va nous conduire à nous poser la question de savoir est-ce que la métropole aura des choses à dire ou pas sur ces problématiques de la santé mentale, ou bien est-ce qu'il faut rester à un niveau plus modeste et qui est déjà très ambitieux, qui est celle d'une ville comme Marseille avec 800 000 habitants.
Enfin, je ne sais pas si ça appelle des commentaires. Est-ce que dans la salle, vous souhaitez intervenir, soit par rapport aux intervenants à table ronde, soit vis-à-vis des exposés du docteur Micheletti, de Pascal Mariotti, de Madame Trondebouchoni ou de Madame Achard?